Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que pour montrer votre soutien au podcast, il vous suffit de vous y abonner via votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas également à nous laisser 5 étoiles et à rejoindre Slice sur ses pages LinkedIn, Facebook et Instagram. Merci beaucoup! Bonjour à tous et bienvenue sur Slice, le podcast qui vous parle de l'entrepreneuriat. J'ai la chance d'être entourée quotidiennement par des gens tout à fait fascinants. Des hommes et des femmes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui se sont lancés avec la conviction d'avoir la bonne idée, la motivation, l'envie d'innover qui mèneront leurs entreprises et leurs équipes sur le chemin du succès. L'important, c'est le voyage, semble-t-il, alors ce chemin, il m'intéresse beaucoup. Le résultat de ma curiosité, le voici, c'est Slice, le podcast. On parlera ici de réussite et d'échec, d'innovation, d'industrie, de création et de reprise d'entreprise, et au final, de la vie, tout simplement. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Saloua, la créatrice de la marque Saloua Petersen. Avec elle, nous reviendrons sur son parcours et sur sa vie de chef d'entreprise. Vous le verrez, Saloua a un parcours remarquable et atypique. Elle qui est née en Arabie Saoudite d'un papa diplomate et d'une maman princesse de sang royal et fille d'un des pères fondateurs du Tchad moderne. Entre Jeddah, Genève, Cotonou, Libreville, N'Djamena, Le Caire, Paris, New York, Washington, Johannesburg et Shanghai, entre l'ONU, la Banque mondiale, L'Oréal et un petit stop pour étudier le droit à Harvard, Saloua nous racontera les grandes étapes de sa vie et son parcours jusqu'à la création de son entreprise. Inspirée par les rituels de beauté tchadiens que lui ont transmis les femmes de sa famille et notamment son arrière-grand-mère centenaire à l'époque, Saloua nous parlera du chébé qu'elle a magnifié et mis en valeur dans le tout premier produit cosmétique de sa marque. Nous parlerons aujourd'hui famille, héritage, voyage, business et plantation. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira autant que j'ai aimé l'enregistrer. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ok, c'est parti. Oui. Allez, bonjour Saloua.
Bonjour Marjolaine.
Merci beaucoup d'être avec moi à Neuilly pour parler de toi, de ton aventure entrepreneuriale et de ta marque Saloua Petersen. Avant de commencer toutes mes interviews de Slice, j'ai une petite question, la question traditionnelle du podcast. J'aurais aimé savoir qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petite fille.
Quand j'étais petite, je voulais être médecin.
Médecin, d'accord. Pourquoi tu avais des médecins dans ta famille ou
Oui, et puis surtout, en fait, mon père faisait du travail de développement.
D'accord.
Et une des choses qu'il faisait, c'est qu'il gérait un hôpital. Et, voilà, donc c'est surtout les dispensaires. Voilà, et moi, je voyais la différence que ça faisait dans la vie des gens de se faire soigner. Pour des choses comme
d'avoir accès à la santé.
Ouais. Et ça m'avait touchée très très jeune et j'avais envie d'être médecin pendant très longtemps.
Et tu avais une spécialisation, tu pensais à une spécialisation
La dermatologie, ça me passionnait.
Mais attends, t'avais quel âge? Parce que la dermatologie, c'est quand même...
Au début, je voulais juste être médecin, puis ensuite, j'ai pensé à la dermatologie. Après, il y avait aussi la chirurgie qui m'intéressait.
Ouais. Donc, pour bien comprendre, ton papa qui gère des dispensaires et des hôpitaux. Mmh. Donc, toi, t'es née à Jeddah, en Arabie Saoudite. Mmh. Et ton papa était diplomate. Donc, tu as vécu dans plein de pays différents. Mmh. Et notamment, petit point commun, au Gabon. Voilà. Donc, t'es née en Arabie Saoudite. T'as vécu en Suisse, au Bénin, en France. Au Bénin et au Gabon. Et puis, t'as voyagé un peu partout. Donc, tu as fait l'école dans une partie de ces pays-là.
Oui.
Et donc, à l'école, tu suis un cursus normal.
En français, oui.
En français, normal. Quand tu arrives en première, tu choisis quoi comme... Tu sais, tu as S, L, E, S, économie.
Oui, S. En fait, ce qui est intéressant, moi, j'ai jamais fait la terminale.
D'accord.
J'ai fait le bac, tout.
Ah oui, c'est ce que j'ai lu, oui, t'as eu ton bac à 15 ans.
Oui, exactement.
Ok.
Ouais,
voilà.
J'avais aussi sauté le... J'ai jamais fait le CM2 non plus. Ouais, donc j'avais sauté les classes.
D'accord, ouais. T'avais envie de vite travailler en fait.
Oui, mais en fait, c'était surtout les... À chaque fois, c'était systématiquement les profs.
Qui te faisaient...
qui me faisaient sauter les classes.
Tu t'ennuyais à l'école?
Oui, parce que ils trouvaient que j'allais trop vite.
D'accord.
Et en fait, ils me disaient, bon, voilà, mais en fait, non, c'est, tu vois, c'est à la classe supérieure. Et puis, je me rappelle, c'était le censeur, enfin, donc le proviseur à l'école, qui m'avait dit, mais tu devrais essayer le bac. Je dis, ah bon, ouais, ok.
Mais t'étais en quelle classe, t'as passé le bac, en fait?
Première.
En première,
ouais.
T'as passé directement le bac
Directement,
Ok, donc tu as eu
Ouais.
Voilà. Mais à 15 ans, est-ce qu'à 15 ans, qu'est-ce que tu fais en fait à 15 ans?
Bah, du coup,
évidemment. Dans certains pays, t'as pas l'âge pour pouvoir rentrer à l'université, parfois il y a un problème, etc. Mais,
Non, il n'y avait pas ce problème-là. Du coup, moi, je m'étais posé la question, qu'est-ce que je faisais?
Ouais.
C'était assez compliqué. Enfin, c'est très long, mais je l'ai fait simple.
Ouais.
Et du coup, moi, j'ai décidé d'aller au Tchad.
Ouais.
Et de vivre au Tchad. Et je me suis inscrite dans une école de commerce au Tchad.
Et pourquoi t'as voulu retourner au Tchad?
Bah, parce qu'en fait, je passais mes étés au Tchad, mais je trouvais que j'avais pas vécu suffisamment au Tchad.
D'accord, parce que tu es d'origine tchadienne. Voilà, on le dit aussi. Une citoyenne du monde, mais quand même de nationalité franco-tchadienne. Donc voilà, tes origines, ton papa et ta maman sont tchadiens. Voilà.
Voilà. Et donc, du coup, moi, j'avais envie de vivre au Tchad.
Tu voulais te rapprocher de tes racines.
Me rapprocher. Et puis, j'ai vécu dans cette maison extraordinaire avec ma grand-mère et mon arrière-grand-mère maternelle.
Les deux. Arrière-grand-mère et grand-mère maternelle.
Et une flopée de tantes.
Et de cousines.
Et des cousines
et tout ça. Ouais. Et donc, à 15 ans, tu décides de... Donc, tu étais dans quel pays quand tu as passé ton bac?
Bénin.
Tu étais au Bénin. Ouais. Tu décides donc d'aller au Tchad, donc, où tu te retrouves entourée de toutes ces femmes.
Exactement.
Et tu rentres en école de commerce.
Exactement.
Et tu as une spécialisation à l'école de commerce? Ça dure combien
de
temps?
Je faisais de la banque. En fait, ça devait faire 3 ans, mais j'avais fait en 2 ans. Mais en fait, j'étais pas très...
Ça t'intéressait pas?
Si, oui et non, en fait. Je trouvais aussi que c'était un peu facile. Donc, du coup... Et les horaires étaient très bien parce que c'est de 7h à 14h.
Ouais.
J'avais toutes mes après-midi.
Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu faisais pendant tes après-midi?
J'ai fait plein de trucs. Je passais beaucoup de temps avec ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mais j'ai monté plein de petits business aussi. Donc, c'est ça, ouais.
Qu'est-ce que tu vendais?
Mais j'avais plein de trucs. J'avais travaillé sur le truc de microfinance. Donc, j'avais fait un blueprint avec des femmes. J'avais fait un truc d'alphabétisation. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? J'avais aussi un business avec des cosmétiques traditionnels. Donc,
j'avais déjà commencé, ça doit pas être ça, non?
Donc, ça, c'est la vraie histoire que j'avais pas encore à côté, mais c'était en 2000 que j'avais commencé.
D'accord, donc t'avais plein de petits business.
Ouais.
Ok.
Bah il faudrait que je change mon truc et je vais dire c'est établi en live 2000 et pas 2001 quoi, voilà.
Il y a déjà plein d'entreprises à mon actif.
Ouais.
Ok. Et qu'est-ce qui te fait donc après ça, donc une fois que t'as fini école de commerce, qu'est-ce que tu fais?
Mais du coup, une fois que j'ai fini, je m'étais inscrite en médecine.
Mm-hmm.
Donc j'ai accepté.
Et la médecine revient sur le devant de la scène.
Elle revient. Ouais. Elle revient. Et
à Djamena toujours?
Non, au Caire.
Au Caire. Ah oui,
ouais,
en Égypte.
Au Caire, en Égypte. Ouais. Et du coup, en même temps, j'avais été tellement choquée par ce que j'avais vu au Tchad, donc sur la situation des femmes, l'illégalité. Enfin, il y avait beaucoup de trucs illégaux, mais pardon, l'inégalité, c'est ce que je voulais dire.
L'inégalité et illégalité, bon,
voilà. Et puis aussi, l'excision est très, très présent.
Ouais.
Les femmes, en fait, les petites filles qui étaient mariées à 12 ans, 13 ans. Moi, j'avais trouvé très choquant, très révoltant.
Mm-hmm.
Et du coup, je me suis dit, soit je deviens médecin,
soit
je deviens avocate.
Ouais. Ah bah ouais, là, c'est deux choix
qui étaient très différents.
Et là, du coup, tu avais changé parce que la médecine, vu que tu parles de l'excision, c'était peut-être gynécologique ou... Non.
De toute façon, j'allais faire le général.
Ouais, ouais, j'aurais dans décidé l'idée d'aider de toute façon, plus, ok,
ouais. Et après, j'avais aussi pensé à la pharmacie, très vite, mais vite, quoi. Mais c'était les trois qui étaient vraiment... les deux que j'avais beaucoup regardé. Et en fait, l'histoire de fou, c'est que j'étais partie pour faire médecine.
Ouais, donc au Caire, donc en Égypte,
Et donc, à l'aéroport, dans le sac de mon père, il s'est fait piquer un sac où il y avait tous mes diplômes. Donc, après, on a récupéré les origines.
Oui, bien sûr. Ouais.
Mais c'était avant qu'il y avait vraiment Internet, etc. Ouais. Donc, on arrive au Caire et j'étais déjà en retard, en fait. Les cours avaient déjà commencé, ça faisait plus d'un mois.
Ah oui.
Et en fait, à la faculté de médecine, ils m'ont dit, il faut les originaux. Donc, le temps de les avoir, ils m'ont dit, mais après, vous allez rater l'année. Et
là, tu te retrouves au Caire, tu fais... J'imagine le désarroi, non?
Panique. Non, mais en fait, et je m'étais aussi inscrite en double maîtrise de droit. Au Caire et à Paris, donc en même temps. Donc, j'avais les deux inscriptions.
Ok.
Et là, donc, moi, je crois vraiment au destin.
Ok.
Et là, je me suis dit, quand même...
La médecine, je peux pas.
Ouais, ou j'attends un an. Ouais. Et ça me fait chier d'attendre un an et puis de repasser 6 ans
c'est ça.
Fac. Mais là, je me suis dit, mais c'est un signe.
Ouais, il faut que là où tu peux aller, c'est le droit en fait.
Ouais, et je me suis éclatée.
Ouais.
J'ai fait du droit, j'ai adoré.
Ouais.
Ouais.
Et pourquoi t'avais choisi l'Égypte?
Parce que je voulais faire de la charia.
Parce que
je voulais faire de la charia, ouais. Et c'est très réputé.
Ah,
oui,
d'accord, d'étudier le droit islamique, en fait.
Ouais, voilà, ouais. Et pourquoi le Caire médecine? Pour plein de raisons. Mon père a grandi au Caire.
D'accord, ok. Tchadien,
donc ça, c'est, okay. C'est une ville qui a une place très spéciale.
Oui, mais ton papa aussi, déjà, il était diplomate, donc il a passé son temps à bouger. Mais déjà, enfant,
il a grandi.
D'accord, ok.
Non, mon père, c'est en fait un Kairot.
D'accord, ok.
C'est un Kairot. Et donc, c'est une ville que moi, j'adore, le Caire.
Ouais.
Et aussi, la faculté de médecine, ça ne m'intéressait pas de faire de la médecine ici.
Okay. En Europe,
ou aux US, parce qu'en fait les gens apprennent à faire des trucs sur les mannequins. C'est ouais. Ce que tous mes amis de médecine, et ils m'ont dit, si tu fais en Égypte ou en Afrique, t'apprends directement exactement
à la dure,
et
tout sans anesthésie. Non, c'est pas vrai.
Mais si, elle a l'anesthésie quand même. J'avais un ami en fait, justement, qui faisait cette étude ici,
ouais.
Et qui a préféré rentrer au Sénégal. Et ensuite, d'accord. Qui est revenu pour sa spécialisation. Il m'a dit, non, ne viens pas ici, fais le Caire.
Mais les gens ne savent pas trop. Mais il y a beaucoup d'universités. Mmh. Par exemple, je sais que les médecins marocains, la faculté de médecine, alors je ne sais pas si c'est à Casa ou alors, mais c'est extrêmement réputé. Ouais, enfin, il y a des grandes facultés de médecine en Afrique. Parce que tu sais, quand on parle de l'Afrique, souvent on dit, voilà. Non. Mais en fin de compte, tu as des formations.
Au Maroc, au Caire, universitaires, celle du Sénégal.
Tu as des formations universitaires excellentes. Ou les mathématiques aussi, je sais que les marocains, dans les maths, c'est des tueurs. Voilà, donc c'est, il faut que ce soit
dit. Aussi,
c'est ça, il faut que ce soit dit. Mesdames et messieurs, vous pouvez aller faire vos études et c'est de très bonne qualité.
Surtout si vous voulez faire médecine.
C'est ça, sur des vrais gens avec anesthésie.
Oui, on apprend beaucoup de maladies très vite.
C'est ça.
Et puis en plus, comme il y a un manque de main-d'œuvre, en fait, tu fais tout. Très tôt.
T'es multifonction.
En fait. T'es multifonction et puis t'es obligé de tout faire. T'es pas obligé d'attendre d'avoir fait 7 ans de théorie, quoi.
D'accord. Donc, finalement, c'est pas médecine.
Finalement, c'est pas droit. Médecine, c'est
et
droit.
Pourquoi tu voulais étudier de la charia, la loi de droit islamique?
Le droit islamique, parce que beaucoup de gens, surtout au Tchad, disent que c'est. On fait ça aux femmes parce que c'est le droit islamique, ce qui est pas tout à fait vrai.
Ouais.
Mais donc voilà, donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire cette maîtrise. Et en fait, j'ai jamais vraiment regretté la médecine.
Ouais. Donc, du coup, tu t'es éclatée.
Ouais, je me suis
éclatée. Et donc, t'as appris quoi pendant. Ça dure combien de temps les études?
La double maîtrise, c'était 4 ans. À l'époque, on avait encore la maîtrise. Donc, c'était 4
d'accord.
ans. Je me suis éclatée. J'adore le Caire. Donc, je suis très contente d'y
aller. Ah, bah, t'as vécu ta meilleure vie.
Exactement. C'était la meilleure vie. Et aussi, ce que j'avais beaucoup, beaucoup adoré, c'est que j'avais fait plein de trucs. J'avais fait le concours des droits de l'homme.
Ah oui, la simulation des Nations Unies,
ouais,
nous aussi.
Celle-là aussi,
donc au Canada, il y a, je crois que dans tous les trucs de droit ou de Sciences Po, tu as la simulation des organisations internationales, etc.
Ouais, voilà.
Tu représentais un pays ou...
Oui, la première fois, je représentais c'était le Brésil, ouais.
Le Brésil,
ouais.
Okay.
Et la deuxième fois, j'étais chairperson.
Okay.
Donc j'avais fait à celui de Genève, qui est quand même très bien, puisque c'est au Palais des Nations.
Ok.
Donc voilà, avec ça, c'était très top.
Tranquille.
Ouais. Et aussi le concours des droits de l'homme, donc où on était comme avocat en fait, pour présenter un cas devant la Cour africaine des droits de l'homme, donc en Éthiopie, donc ça c'était à l'Union africaine.
Okay.
Et j'avais passé aussi un été au Canada, donc à l'Université de Montréal.
Oui.
Ouais, j'étais vraiment éclatée. Et j'avais fait aussi un cours à l'Université de Pretoria en Afrique du Sud. Un stage, c'était très plein, intense. Hein,
très
un
intense.
Un stage
ouais.
Donc en Chine.
Oui, à Guangzhou, c'est ça,
Guangzhou, exactement.
Ah oui.
Ouais,
d'accord.
Ouais. J'ai fait ça pendant ces 4 ans. C'était 4 ans très intenses.
Ah
et
ouais.
Puis je pense aussi que ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'étais petite enfant et puis ensuite au lycée, j'avais tellement bossé. Je suis majeure de promo, machin, tout ce que tu veux. Et ensuite, j'ai eu ces 2 années au Tchad où c'était très relax.
Ouais.
Et du coup, quand je suis revenue, j'ai respiré. Mais je crois que et c'était nécessaire. Et puis je pense que c'était là où je m'étais aussi rendu compte que je voulais pas vraiment devenir médecin en fait.
Il faut autre chose. Mais je comprends cette idée de bien tout faire, ses études, c'est de façon linéaire.
Ouais.
On redouble pas, on fait bien, on est une bonne
on
élève.
On saute des classes surtout.
C'est ça.
Qu'on se retrouve un peu.
Et puis au bout d'un moment, c'est juste. T'as besoin de ce moment de... Donc certains vraiment font la fête, tu sais, vraiment se lâchent, etc. Mmh. Ou juste, tu fais rien pendant un temps, mais c'est pour mieux te remettre le pied à l'étrier et repartir de plus belle. Mais un besoin de...
C'était bien, moi, j'avais trouvé ça.
C'est
bien.
Ça.
Mais à l'époque, je me disais, 2 ans, en fait, je perdais un peu l'avance que j'avais pris. Mais j'avais un peu l'avance.
Ouais,
j'étais un peu comme ça parce que je me suis... Mais en même temps, je pense que c'était très positif.
Ok.
Ouais.
D'accord.
Du coup, et le droit aussi, c'est très formateur.
Ouais.
Parce qu'en fait, ça te donne une certaine façon de penser, d'analyser. Et tu bosses beaucoup en droit.
Ouais.
Même si comme moi, j'ai bossé pendant 4 ans non-stop. Hein.
Et à la fin, t'as eu envie de faire une pause ou t'as directement enchaîné?
J'ai directement enchaîné parce que j'avais eu une bourse bourse d'excellence, donc du gouvernement français, la bourse
Eiffel.
Oui,
la bourse Eiffel.
Exactement.
Je ne la connaissais pas, donc j'ai regardé, je me suis dit, mais dis donc. D'accord.
Donc je suis venue à Paris pour faire mon master à la Sorbonne, pour continuer.
Et donc c'était sur quel, parce que là c'était droit islamique, et là
quand non, là c'était vraiment beaucoup de droit français. C'était
droit français, ouais, droit des affaires.
C'était vraiment la double maîtrise.
Parce que quand tu étais au Caire, c'était pas que tu n'as pas étudié que le droit islamique,
non,
il y avait le droit français, ok, c'était des droits, ok, d'accord. Ouais. Donc là, tu arrives à la Sorbonne.
J'arrive à la Sorbonne.
Tu fais 2 ans, c'est 2 ans, non ?
Un an,
ok.
Un an, donc je fais 1 an.
Et Paris, c'est bien ?
J'adore. Moi, j'ai toujours adoré Paris, donc je suis très contente.
Ouais.
Et pendant que je faisais mes études au Caire, j'étais aussi en France, en fait. Je suis venue, j'avais notamment fait un stage aussi en cabinet d'avocat. Angers.
Voilà. En fait, tu n'arrêtes pas de. T'as pas arrêté de
J'avais
bouger.
Pas arrêté,
toujours à engranger de l'expérience.
Ouais.
D'accord.
Et comme j'ai dit, en fait, je pense que cette pause que j'ai fait au Tchad m'a permis de me rendre compte de plusieurs choses. Déjà que je voulais pas finalement faire médecine, mais plutôt droit.
Ouais.
Et deuxièmement aussi de me rendre compte que de faire cette pause, mais de repartir. Je pense pas que je serais partie avec cette même niaque si j'avais continué directement après le bac.
Ouais, directement sans t'arrêter, sans prendre le temps peut-être de te ressourcer aussi, et puis peut-être d'avoir ce lien aussi avec ta famille.
Avec ma famille, avec les rituels de beauté,
c'est
donc ça m'a
énormément influencée. On va les retrouver.
On va les retrouver 20 ans plus tard. Et puis aussi cette première expérience d'entrepreneur que j'ai adorée.
Ok, donc t'es à Paris pendant 1 an.
Pendant 1 an.
Tu finis donc ta maîtrise.
Ouais.
Ton master. Fois qu'on finit donc son master, de faut se trouver un boulot a priori.
Oui.
Et donc vers où tu te diriges, tu te dis qu'est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire?
Très clair.
Rentrer dans un cabinet ou...
Je voulais surtout pas faire un cabinet d'avocat.
Okay,
je voulais travailler dans l'organisation internationale.
Okay. C'est ce que j'avais voulu faire. Comme ton papa aussi était
aussi
dans les organisations internationales.
Exactement.
Ok. Donc j'ai vu que tu as fait un stage à New York.
Exactement.
Au secrétariat des Nations Unies.
Ouais.
La classe aussi, tout va.
Mais je me suis emmerdée comme un rat crevé pendant tout l'été.
Mais t'es pas la première personne à me le dire. J'ai une amie aussi qui a fait ça. Mais je sais pas, mais c'était pas à New York, c'était dans une autre organisation internationale. Et... c'est un peu tourner les pouces, c'était
j'ai
long.
J'ai bossé, hein.
Oui, mais c'était un peu long, quoi. C'est... D'accord.
Ça m'a... Ouais, j'en suis encore, tu vois, genre 13 ans plus tard.
Non, mais allez-y, hein, si vous avez l'opportunité, les auditeurs, mais bon.
Ouais. Après, ça dépend de ce qu'on cherchait. Ouais. Mais en plus, moi, je pense que j'étais tellement dans le truc pendant...
Faut y aller, tu vois, un peu volontaire et...
Ouais, j'étais allée, j'ai fait plein de trucs.
Oui, hein, oui.
J'étais pas que restée là où...
Oui.
En plus, c'est à la section des traités.
Ouais, des traités,
internationaux.
Voilà. On sent la douleur.
Ouais, c'est resté. Mais bon, après, comme je suis arabophone, ils avaient une librairie qui faisait de droit international, donc ils m'avaient demandé de regarder pas mal de choses de traduction. J'avais fait ça c'était passionnant. Et aussi, ils avaient besoin de. C'était l'avantage aussi de parler des langues rares. J'ai passé du temps aussi avec les sciences politiques.
Oui, d'accord.
Et puis un peu au conseil de sécurité. Donc, j'ai quand même fait un stage beaucoup plus intéressant que la moyenne.
D'accord. Parce que tu parles de langue. Tu parles 6 langues,
ouais,
c'est
exactement,
ça
ouais.
Attends, donc le français, l'arabe.
Le dazara, donc qui est ma langue maternelle.
Le dazara.
Et ensuite le français, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'allemand. Voilà. Et quelques notions de portugais.
Bien sûr. Ben c'est normal, t'as fait l'ONU, le Brésil, c'est normal.
Ouais.
Ok, donc tu fais ce stage donc à l'ONU, qui est quand même riche, mais un petit peu long.
Non, c'était très bien.
C'était très bien, mais bon.
Ouais. C'était très bien. Mais surtout, en fait, moi, j'avais passé beaucoup de temps pendant mon stage à essayer d'avoir mon prochain job, parce que j'avais pas un job, et je voulais pas aller en cabinet d'avocat, et je voulais travailler pour la Banque mondiale.
Ah, t'avais la Banque mondiale en ligne de
mire.
Pour
moi, c'était comme ça. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris mon téléphone. J'étais encore à Paris, à la Cité U, dans le 14e.
Ouais.
Et j'avais appelé la Banque mondiale et j'avais demandé à parler à la vice-présidente du juridique, qui est française. C'est une personne que j'adore, avec qui je suis toujours
en contact.
Anne-Marie Leroy, qui est conseillère d'État, en fait.
Okay.
Et qui donc était la vice-présidente senior, la boss du département juridique.
Elle t'a répondu?
Et oui, en fait, j'ai
tu l'as
réussi
eu
à la voir. Ouais, en fait, j'ai eu son assistante.
Ouais.
Du coup, j'ai sorti mon accent le plus français dans mon anglais. On dit, voilà, j'appelle de Paris, machin, tout.
Ouais.
Et j'ai récupéré son email. Du coup, je lui ai écrit en français. Et elle m'a répondu, à ma très grande surprise. Elle m'a répondu et puis elle m'a dit, oui, votre profil est très intéressant. Et je lui ai dit que je vais être à New York pour pour mon stage.
Ouais.
Et j'ai un peu harcelé comme j'ai écrit machin. Mais il faut. Et puis en fait, elle m'a dit.
Parfois. Mais ça montre ton.
Je vais vraiment au travail. Ouais. Et du coup, en fait, elle m'a fait interviewer par son collègue, donc, qui était en fait le représentant de la Banque mondiale aux Nations Unies à New York. J'ai eu une première interview.
Ouais.
Aussi une personne que je suis encore en contact.
Oui. Voilà. T'as ensuite... des contacts sympas, toi.
Ouais. Oui, parce que je trouve aussi dans la vie, il y a des gens comme ça avec qui on garde ce lien.
Oui, ce lien, mais qui va au-delà juste de la relation professionnelle, c'est juste parce qu'ils
ont été... C'est des mentors,
c'est ça, et puis ils ont été là pour te...
Pour toi, quand
pour t'aider à performer, à aller plus haut et atteindre tes objectifs.
C'est très précieux, des gens comme ça, voilà. Okay. Et donc, du coup...
Il te fait l'interview à New York, du coup.
À New York, et après, quelques jours après, Anne-Marie m'écrit, et puis elle me dit, voilà, moi, je veux vous voir, mon secrétariat va vous contacter. Et du coup, je suis allée à DC, donc à Washington DC, et elle m'a interviewée elle-même. Et il y avait aussi les RH qui étaient là, et puis d'autres personnes seniors de l'équipe. Et je suis rentrée à Paris, et quelques semaines après, j'ai eu un appel qui m'a dit, voilà, on propose un job. Initialement, elle m'a dit que ça serait un stage, un consulting, mais en fait, c'était un job de counsel, de staff.
À 24 ans, c'est ça, t'avais 24 ans.
Exactement.
Ok, c'est ça. Voilà, c'est la consécration.
Exactement. Moi,
c'était ton goal, en fait.
Oui, c'était mon goal. D'autant qu'à Paris-Lyon, il m'avait dit, oubliez, allez faire en cabinet, ils ne vont pas vous prendre si vous n'avez pas 5, 6, 7 ans d'expérience, ce qui est effectivement le cas.
Ouais.
Et donc, du coup, moi, je suis allée à la Banque mondiale et j'ai adoré.
T'as fait quoi ? C'était quoi ton job à la Banque mondiale ?
À la banque, en fait, du coup, moi, j'avais commencé donc, comme junior counsel, où en fait, j'assistais les avocats plus seniors, qui c'est souvent très expérimenté. Hein. C'est des gens qui ont passé 7 ans, 10 ans en cabinet.
Ok. Donc, et qui, après, sont rentrés à la Banque mondiale
comme counsel, senior counsel, etc. Ouais. Et donc, du coup, à rédiger des accords juridiques, qui sont des traités, qui finissaient à la treaty section de Nations Unies.
Le lien est fait. Voilà. C'est les nouveaux stagiaires là, qui se tapent des traités.
Ouais, c'est les nouveaux qui les recevaient, voilà, pour les enregistrer.
C'est juste elle.
C'est elle, Et du coup, j'avais fait ça. Donc, moi, j'avais tout fait. Et puis, comme j'étais jeune, j'avais faim. Et ils étaient vraiment géniaux, les avocats là-bas. Ils m'ont vraiment pris sous leur main. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses avec eux.
Donc, d'accord.
Donc, j'ai appris très vite.
Des voyages aussi
énormément dans toute l'Afrique, surtout en Éthiopie, Libéria, Côte d'Ivoire.
D'accord, il y avait des sujets spécifiques.
C'était tout
traité.
Type de contrat, mais c'était vraiment c'est pas des contrats, c'est des accords, puisque c'est entre la Banque mondiale et des États souverains.
Ok. Des accords sur quoi ?
Sur par exemple construire une route et aussi. Moi j'avais énormément lu aussi pendant que j'étais à la Banque mondiale.
Ouais. Des projets de développement aussi.
Des projets de développement, et puis c'était toujours des gens qui sont très brillants, donc qui faisaient des. On apprenait énormément, donc avec les ingénieurs quand c'était pour construire une route, et nous on devait comprendre toutes ces informations là. Pour pouvoir le mettre dans un accord juridique.
Le formaliser. Voilà, et expliquer les spécificités.
Donc ça, j'ai adoré. Mais aussi, pendant que j'étais à Banque mondiale, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur les gros budgets qu'il y avait sur ce type de projet.
Okay.
Et j'avais lu une étude qui m'avait particulièrement touchée, qui me touche encore, je suis émotionnelle, genre 12 ans après. C'était sur l'éducation.
Okay.
Si on met 2 à 3 générations de filles à l'école, pendant 2 ou 3 générations, on sort un pays de la pauvreté. Et là, je me suis dit, mais la solution, elle est là.
Ouais.
En tout cas, moi, j'y crois très fort, en l'éducation. Moi, j'ai vu la différence. Même quand moi, j'étais petite, j'avais eu le privilège d'aller à l'école, etc. Beaucoup de mes cousins n'ont pas eu cette chance. C'est une chance. Et on voit les trajectoires, en fait, de mes cousins, de vie, d'opportunités qu'on peut avoir.
Dans la même famille, peut-être le fait d'avoir des moyens ou d'être plus privilégié ou d'être dans une société qui te permet, quand tu habites en France, tu sais que l'école sera gratuite, donc tu pourras plus facilement même faire des études supérieures, ou même si tu habites en prenant des pays développés, même les États-Unis, pour aller à l'université,
ça coûte extrêmement cher, il faut s'endetter.
Ou une très bonne école. Donc oui, tout le monde, on n'est pas sur le même pied d'égalité, mais parfois, c'est pas juste financier. C'est financier, ou parfois c'est juste
avoir l'accès.
Voilà, situationnel, et avoir l'accès. Se déplacer, etc. Ouais.
Ouais. Ouais. Et donc, du coup, moi, cette étude, elle m'avait. Je sais pas. Ça m'a vraiment mis ce truc dans la tête. Ce qui m'avait donné, pour faire un peu juste marche arrière, ce qui m'avait donné envie d'aller travailler à la Banque mondiale, ce sont les écrits de Stiglitz. Donc Stiglitz était l'ancien chief economist du FMI, qui est très critique vis-à-vis de ces deux organisations. Et moi, donc, je me suis dit, je peux aller y voir ce que je peux faire.
Je vais sauver le monde.
Exactement. Donc, c'est bien. J'étais très idéaliste. Voilà, j'avais envie de sauver le monde.
Je vais apporter ma pierre à l'édifice.
Exactement.
Voilà, ouais.
Et là, je me suis rendu compte très vite que ma vraie pierre à l'édifice, c'était le privé, l'entrepreneuriat. Et j'y crois encore très fort.
Ouais.
Et je me suis dit, c'est pas en faisant des crédits, c'est pas en faisant des dons et en ayant tous ces overheads, en fait, des coûts, qu'on va faire une vraie différence.
Ouais.
La Banque mondiale, c'est depuis après la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, ça faisait déjà à l'époque 60 ans, 70 ans. Bon, on attend encore, quoi.
Ouais, ça, et le FMI a... mettre un truc à avoir, ouais.
Et le FMI a fait beaucoup de mal aussi, il faut le dire, sur certaines économies. Moi, je ne suis pas économiste, mais j'avais regardé, j'avais eu beaucoup de discussions avec des économistes. Et je me suis dit, en fait, c'est pas exactement ce que j'ai envie de faire. Je vais peut-être finalement aller dans le privé après tout. Et justement, les avocats, les clients avec lesquels je travaille, disent, oui, tu peux aller en cabinet, tu peux voir et... Après, tu reviens.
Oui, bien sûr. De toute façon, avec ton parcours et ta formation, tu as le privilège d'avoir, d'être brillante et d'avoir quand même des diplômes de qualité. Donc, tu auras toujours le privilège de revenir si tu veux revenir. Quoi.
Ouais. Et donc, je me suis dit, je vais partir. Et
tu es resté combien de temps alors, du coup?
Un peu plus de 2 ans.
Un peu plus de 2 ans, oui.
Et donc, je suis allée en cabinet d'avocat en Afrique du Sud.
Ouais, à Jobourg.
À Jobourg, voilà. Ouais. Un gros cabinet, un des plus anciens cabinets sur le continent. Ça fait plus de 100 ans qu'ils continuent d'opérer.
Et comment tu les as trouvés?
Via la banque, en fait.
Via la Banque mondiale, ouais, tu les avais repérés.
Ils travaillent avec la SFI. Ils travaillent avec la SFI, donc la Société financière internationale.
Ok.
Et en fait, la Société financière internationale travaille avec beaucoup de cabinets. Et donc, en fait, c'est le chief counsel en fait, de la SFI.
Ouais.
Si je gère, si tu nous écoutes.
Bonjour. Voilà. Hello.
C'était son contact. Donc, d'accord. C'était lui qui avait facilité ce contact.
Ton entrée et puis ton...
Voilà.
Ok.
Et du coup, j'avais pas vraiment prévu de rester pour une carrière.
Oui, mais juste voir dans le privé ce que ça privé. Donnerait le et, droit.
Et j'ai détesté.
T'as détesté?
Ouais, mais
okay. Et pour quelle raison t'as détesté?
Plein de raisons. Je trouvais que ça, autant à la Banque mondiale, même si je trouvais que ça fonctionnait pas toujours, il y avait une cherchement français en anglais, on dirait un meaning. Il y avait
un sens.
Il y avait quelque chose de plus grand que nous. Mais en cabinet. Voilà. Et en plus, je travaillais avec des clients très connus que je ne citerai pas.
Ouais.
Mais je travaillais sur les mines. Donc les matières précieuses.
Les demi-heures et les machins. Voilà.
Je ne citerai pas.
Oui. Voilà. On en a discuté hors micro, mais c'est un sujet. Les ressources naturelles en Afrique. Enfin, moi, c'est plus sur la République démocratique du Congo. Mais bon, toi, Afrique du Sud et tout.
Non, mais c'était pareil. De toute façon, tout se passait au Congo. C'est un peu les mêmes qu'on retrouve. Et moi, j'avais trouvé très, très choquant certaines choses.
Ah, bah oui.
Et j'avais pas envie de...
participer à ça.
Exactement. Voilà, à ça.
Ouais.
Et donc, j'ai fait à peine 6 mois. Et entre-temps, j'avais envoyé ma candidature à Harvard.
Donc, quand t'envoies ta candidature à Harvard, tu te dis, je vais être prise ou c'est juste tonton... parce que c'est Harvard, c'est un peu... Tu sais, la Ivy League, le Graal, tu peux pas aller plus loin, tu vois, plus haut. Quand t'envoies ta candidature, ça t'est venu comment de tenter ta chance? Surtout que tu vas déposer un bon paquet d'argent, si on peut en parler.
Exactement,
aussi. Pour faire ça, c'est quand même un choix aussi qui engage...
Qui engage tes finances pour un long moment.
Pour un long moment.
Voilà, exactement. Bah, écoute, moi, je sais pas, pour Harvard, moi, ça m'était venu assez naturellement. Parce que j'avais un mentor préféré à la banque. Qui est mon ancien chef, bonjour Ferenc, tu nous écoutes, qui a fait Harvard et qui m'en avait parlé, on en avait discuté et puis il m'a dit ouais, tu devrais y aller, tu vas adorer. On avait pas mal parlé et moi j'y avais déjà pensé avant, mais il m'avait aussi beaucoup encouragé, il m'avait écrit une très belle lettre. Et Anne-Marie aussi m'avait écrit une très belle lettre de recommandation.
Oui. Les mecs, ils ont vu arriver avec tes lettres de recommandation. Ah, ok.
Donc voilà. Mais moi, en fait, j'y étais allée vraiment en y croyant.
Ouais.
Donc, je sais pas. Moi, je suis un peu l'optimiste éternelle aussi.
Ça va marcher.
Ouais, ça va marcher. Cas, en général, je pars gagnante.
Oui.
Je gagne pas toujours. Mais
oui, mais vaut mieux être dans cet état d'esprit aussi, même pour ta vie personnelle, au jour le jour. Parce que si t'es toujours dans le. la dépression imperpétuelle, ça ne peut pas marcher. Il faut lancer des intentions au ciel pour que ça te revienne la positivité. Appelle à toi la positivité. Ouais. Ok, donc bien évidemment, ils t'acceptent. Ils t'ont accepté, ils t'ont dit bon, bienvenue.
Et j'étais très contente parce qu'ils m'ont envoyé la lettre le jour de mon anniversaire. J'étais trop contente.
Je m'en souviens, c'est une blague, c'est les mecs qui ont fait gaffe exprès.
Non, il le disait. Bon, moi, il me l'avait dit en off quelques semaines avant. Parce que j'avais une offre d'une autre université.
C'était qui était en liste?
Columbia et Stanford.
Ah oui. Oui, c'est aussi, c'est sympa aussi comme, comme université, d'accord. Mais bon, Harvard, j'avais
Oui, c'était.
On se pose pas de questions, quoi. Quand Harvard te dit oui, tu.
Ouais,
tu y vas, quoi.
Ouais. Donc, du coup, je suis allée, du coup, et c'était aussi génial. C'est en an, en fait, le programme du LLM. Mais comme tu dis,
c'est un programme de quoi? De loi?
De droit.
De droit.
Et je savais déjà que je voulais pas refaire du droit. Je savais déjà que je voulais pas aller en cabinet.
Ouais.
Je savais que je voulais monter ma boîte.
D'accord. Donc, mais pourquoi alors choisir du droit à Harvard?
Du droit à Harvard, parce qu'en fait, tu fais ce que tu veux une fois que tu es là-bas. Donc, du coup, j'ai passé...
Tu choisis tes courses. Ah, c'est le même principe. Ok. Enfin, moi, j'ai fait l'Université du Canada et tu as une base que tu es obligé de choisir.
Genre
5 ou 6 cours que tu es obligé. Mais vu que ça dure... Enfin, moi, en l'occurrence, vu que j'ai fait toutes mes 5 ans, bah, tu fais ton planning
tu
avec
fais ton
tes...
planning comme tu
moi,
veux.
J'avais pris des cours d'anthropologie de l'Afrique. Voilà, des trucs.
C'est ça,
mais t'es en Sciences Po. Oui, bah, c'est pas grave.
Et tu peux aussi juste aller auditer des cours. Si t'as pas envie d'avoir des notes, tu peux juste aller écouter les profs. Ils sont très contents que tu puisses venir pour écouter des cours.
Et surtout, c'est la rencontre des cerveaux, quoi. Parce que les profs.
Enfin,
t'as que les plus brillants de la planète qui sont là et qui te...
D'ailleurs, il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient en dépression dans ma classe, et pas que. Et beaucoup d'étudiants tombent en dépression à Harvard parce qu'ils ont toujours été premiers de classe. Le profil typique, c'est des majeurs de promo. Mais des majeurs de promo, c'est des gens comme moi qui m'ont sauté des classes, qui ont fait des trucs, qui étaient tout le temps premiers de la classe.
Qui ont l'habitude d'être toujours...
D'être toujours le premier, d'être toujours le meilleur. Et d'être toujours celui qui a fait les trucs que personne n'a fait. Et d'un coup, tu te retrouves dans la même classe qu'avec 200 mecs qui sont pareils.
des Formule 1 et tout là.
Ouais, et y en a beaucoup qui étaient en dépression. Et je me rappelle à un moment donné, c'était... Moi, j'avais pris froid, j'étais un peu malade.
Ouais.
Et du coup, j'étais pas allée en cours, je pense, 2-3 jours, mais j'avais pas pris la peine de prévenir quelque chose. Je me dis, voilà, j'étais pas mal, j'étais pas bien, mais voilà, j'ai pris froid.
Oui,
je suis en rhume, quoi.
Tu en es des adultes, donc
voilà. Exactement. Et là, du coup, c'est là où j'ai su, parce que du coup, je reçois un email du bureau du Graduate School qui me dit, Saloua, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es disponible? Est-ce que je peux te voir? J'étais, ouais, je suis dans ma chambre. Il m'a dit, quand est-ce que tu peux passer? Je dis bah là, et puis elle m'a dit, est-ce que tu peux venir là à 16h dans mon bureau? Je me suis dit, je m'étais pas rendu compte, moi je me ramène. Et en fait, elle me dit,
c'est très gentil.
Elle me dit, en fait, ça va,
on vérifie si t'es encore en vie, en fait.
Ouais,
ah ouais.
Et si tu, et puis c'est là qu'elle m'a dit, en fait, énormément d'étudiants. Je lui dis, non, je suis pas juste déprimée,
non, j'ai juste un rhume, les gars.
J'ai un rhume, et puis je me sentais pas trop bien. Et de toute façon, j'ai dit à un de mes camarades de classe, et
oui, je récupère les notes, parce que c'est ça,
voilà, j'avais juste besoin de me reposer deux jours. Demain, je retourne en cours. Mais elle m'a dit, il y en a beaucoup qui tombent en dépression, comme ça, qui sont déprimés.
D'accord.
Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, le premier, le meilleur, le truc, ouais. Et elle m'a dit, c'est un problème qu'ils ont à Harvard. Et c'est, je me dis, mais ça, c'est un problème de...
On aurait dit un problème de riche,
ouais,
mais
de riche,
c'est pas
le
cas.
C'est un problème de première classe.
Ouais, c'est ça.
Ouais, bon, c'est pas tout le monde qui est riche à Harvard.
Ouais, ouais.
Hein, donc,
aussi. Oui, il y a des gens, ok. Ouais. Et donc, ce programme, ça t'a plu?
Ouais, le droit, c'était... Enfin, moi, j'ai fait ce que j'ai envie de faire. Par exemple,
d'accord.
Pour mon mémoire, j'ai écrit une histoire du droit de la famille. C'est le truc que j'avais jamais fait, mais une histoire du droit de la famille en Afrique francophone. Ils ont tellement adoré qu'ils m'ont demandé de rester pour faire le PhD, parce qu'effectivement, personne n'avait jamais écrit sur ce sujet-là.
Pour le droit de la famille en Afrique francophone, t'avais comparé quoi comme droit de l'Afrique francophone?
Bah, du coup, j'ai fait une histoire. Donc, d'accord. C'est vraiment une généalogie.
D'accord, ok.
Autant,
ah oui, en fonction desquels on commençait à écrire...
Ouais, le droit coutumier, donc la place du droit coutumier, de la charia, dans les pays...
C'est ça.
Voilà, donc dans
c'est
les
ça.
Pays...
Et puis en fonction des différents peuples, et des différents... parce qu'il y a plein d'ethnies différentes qui ont des façons de procéder...
Des façons de procéder...
Différentes, et puis des organisations aussi traditionnelles...
Voilà, des chefferies traditionnelles,
les
des juges traditionnels.
Les royaumes, au Bénin, et puis... Tu en connais, qu'on l'a pas dit, mais ta maman est issue d'une famille royale.
Du Tchad, exactement.
Voilà, du Tchad, donc donc tu t'y connaissais un petit peu.
Exactement. Donc là, du coup, j'ai passé beaucoup de temps.
Et le PhD, ça t'a pas...
J'y ai pensé un peu, mais à l'époque, déjà, mon mon mec qui est aujourd'hui mon mari,
ouais.
Lui en fait il a fini son PhD.
Et ah, tu l'as rencontré à Harvard?
Non, j'avais rencontré avant.
D'accord. Ouais,
okay. J'avais rencontré avant, mais pendant que moi j'étais à Harvard, lui a fait ses études à Columbia.
Ok.
Et à l'époque, lui, il faisait sa recherche à NYU, donc à l'université de New York.
Ouais.
Donc voilà.
Ok.
Et donc moi je suis à Boston et lui est à New York.
Attends, chez vous, ça doit être les cerveaux en ébullition. Vache. Ok. Voilà. Bataille de cerveau.
Ouais. Ouais. Et donc je voyais un peu, ouais. Et j'avais beaucoup discuté avec lui. Il me disait, oui. Mais tu veux devenir prof de droit? Et moi j'adore le droit,
oui.
Je trouve toujours c'est très stimulant. J'ai adoré écrire cette recherche. Et puis pour moi, comme c'était de cette histoire de la famille, donc oui. Je travaille avec les anthropologues.
Oui.
Je travaille avec les études africaines d'Harvard, c'est ouais. Génial. Et ils ont, j'avais besoin de documents, tu leur demandes, ils te cherchent le livre partout où il est dans le monde. Ils sont allés me récupérer tous les codes civils d'Afrique francophone qu'ils ont livrés dans ma chambre. C'est incroyable. Les ressources auxquelles a accès à Harvard sont quand même assez impressionnantes, très impressionnantes même, je dirais. Donc les anthropologues, et puis ce sont les gens qui sont les meilleurs dans leur field. Donc en fait ils avaient tout le monde,
ouais.
Et moi je me suis éclatée, oh. et à la fin elle me disait, mais tu es sûre que tu veux pas rester pour continuer, parce qu'elle me dit, en plus effectivement c'est quelque chose de tellement nouveau qu'on a dû aller chercher la documentation pour toi. Et là moi j'ai dit, ouais non, en fait moi je veux devenir entrepreneur.
Moi ouais, j'ai mon idée là dans la tête,
moi j'ai mon idée dans la tête, et puis non, et puis bah, après elle m'a dit, de toute façon si tu veux revenir
on t'attend, on sera là.
Ça fait 7-8 ans, voilà. Et en plus j'avais eu beaucoup de discussions avec Marie, qui lui est donc aujourd'hui professeur des universités.
Et dans quel dans le droit, lui aussi,
oui,
il est dans le droit.
Droit aussi, ouais. Et c'est la question, est-ce que tu veux vraiment aussi être académique aussi? Et moi je trouvais oui, mais non, quoi. Parce que ouais, j'avais tellement envie de... Parce que pendant que je suis à Harvard, j'ai aussi passé pas mal de temps à la business school.
Ouais.
Notamment avec un prof que j'adore, Jeff Jones,
okay.
Qui en fait est le spécialiste de l'industrie de la beauté, qui a écrit beaucoup de cas. Le cas par exemple d'entrepreneurs très connus comme Estée Lauder,
ouais.
Bobby Brown, dont il connaît certains en fait, et beaucoup de ses anciens étudiants sont allés créer des boîtes
dans qui sont très successives. Ouais.
La cosmétique, dans la beauté, il m'a ouvert beaucoup de portes, justement, okay. Avec des anciens d'Harvard qui ont créé leur propre boîte.
Okay, ouais.
Cosmétique ou sometimes, enfin sometimes pardon, ou parfois la fashion,
ouais.
Et donc bonjour Jeff.
Voilà. Je vais mettre une traduction en anglais, okay, sur YouTube, ouais. Avec les sous-titres,
les sous-titres. Ouais. Et donc lui là, c'est lui qui a écrit l'histoire de la cosmétique,
ouais.
Depuis les origines
du business de la cosmétique,
du business, voilà, donc point de vue business,
okay.
Et aussi il s'est beaucoup intéressé aux entrepreneurs green, écologiques, parce que moi déjà à l'époque j'avais envie de faire une marque green. On a eu beaucoup de débats,
ouais.
C'est quelqu'un avec qui je suis toujours
en contact
ouais. Qui est très fan de la crème capillaire d'ailleurs.
qui l'utilise voilà.
Et donc voilà, donc pour moi c'était une année super, je me suis éclatée.
Et donc tu as écrit ton business plan à ce moment-là?
Ouais, j'ai écrit mon business plan à ce moment-là,
parce que là c'était vraiment, parce que on en a parlé, donc quand tu étais avec ta grand-mère et ton arrière-grand-mère au Tchad pendant ta petite année de césure, deux ans de césure, on va dire, mm-hmm. Tu avais déjà cet esprit entrepreneurial, mais déjà...
J'avais pris plein de notes des recettes de mon arrière-grand-mère, feu mon arrière-grand-mère,
ouais.
Qui entre-temps est décédée, donc qui m'avait donné
plein de recettes de comment
qui était presque centenaire,
ouais.
Du coup évidemment elle avait
toute une vie à raconter, toute une vie de cosmétique et de prendre soin
et d'histoire,
de soi, d'histoire à raconter, ouais.
Oui, oui, parce qu'elle a traversé en centenaire, il faut le faire quand même. Et le 20e siècle, elle était particulièrement...
Oui. Intense.
Comme siècle, ouais.
Et est-ce qu'un jour tu t'es imaginé, enfin est-ce que pour toi c'était je vais monter une marque internationale, ou c'était juste directement tu avais cette idée à l'époque au Tchad, ou c'était juste un petit business comme tu faisais déjà, voir si ça marche, ouais.
J'ai pas pensé, pour être
honnête. Ouais. Tu t'es juste dit, j'ai envie de monter une boîte,
les cosmétiques me passionnent,
ouais.
Et c'est un peu toutes mes expériences qui reviennent, hein. Donc après ce que j'avais vu à la Banque mondiale, j'avais envie de faire quelque chose qui crée des emplois locaux,
ouais.
Et pas de la charité, pas des dons,
oui.
Mais du boulot, quoi, du travail. J'avais envie de... Après ce que j'avais vu en cabinet sur les mines, j'avais envie d'être sûre que quand on va chercher des ressources naturelles, des ingrédients, que
on respecte l'écologie et l'homme
qui tout, en fait tout ça. L'écosystème.
Ouais.
Donc ça c'était resté. Et après de ce que j'avais vu dans le petit business que j'avais fait, je voulais faire un business un peu plus grand quand même.
Pas juste Jamena et et la périphérie. Ok. Et ouais. Donc du coup, donc tu fais donc cette année à Harvard, ouais. Tu fais pas de PhD parce que bon. Voilà,
J'avais plus envie, et puis voilà. Je trouvais que j'avais passé suffisamment de temps à l'école aussi.
Et au final, est-ce que l'investissement vaut le coup? Est-ce que Harvard, ça vaut vraiment le coup?
Ouais, en fait, je ne saurais pas trop dire, parce que dans mon cas, je dirais quand même que...
Oui,
je sais que ça impressionne les gens.
Tu as eu, accès...
Ouais, et puis aussi j'ai rencontré certains de mes amis les plus proches, ouais. À Harvard aussi, qui sont restés très, très, très proches. ouais, ce sont des gens qui sont restés dans le droit. Donc ouais. Une a fait le PhD et qui va devenir professeure au Canada. et une autre qui est restée dans le droit aussi, ouais. D'abord en cabinet, etc., mais avec qui on est resté très proche.
Ouais.
Donc pour eux, moi, je suis dans un monde complètement différent.
Et justement, c'est ma question, parce que donc, Harvard, le droit, tout ça... Quand tu te dis, tu sais, parfois on peut dire, tu te lances dans la cosmétique. Est-ce que pour toi, c'est pas, même si derrière, tu sais, il y a toute une démarche de respect de l'humain, respect de la nature, respect de la biodiversité. Tu parlais des accords de Nagoya sur une interview où je t'ai vu sur TV5
Monde.
Voilà, c'est ça. Est-ce que pour toi, qu'est-ce que les gens ont dit? Est-ce que tu as eu des réflexions? Parce qu'une femme qui se lance dans la cosmétique, après tout ce parcours,
tu as
un parcours de ouf. Voilà. Et là, tu fais de la cosmétique. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui t'ont dit...
Déjà, mes profs de droit à Harvard m'ont dit, mais cosmétique, pourquoi? Parce que j'avais eu des offres de cabinet très réputées à New York, par exemple.
Oui.
Et ils me disaient, tu laisses machin pour aller chez L'Oréal.
Et puis,
j'ai eu la réflexion.
C'est ça. Ouais. Parce que donc, on ne l'a pas dit, mais donc, tu finis donc, Harvard, et là, tu es embauchée chez L'Oréal.
Exactement.
Donc, dans une branche un peu spécifique, c'est les building blocks, comment ça s'appelle? C'est les
les hauts potentiels. Les parcours potentiels. Ouais,
ouais,
exactement.
Et donc, tu arrives chez comment tu trouves ce job chez L'Oréal?
C'est donc, je retourne en Afrique du Sud.
Ouais.
La veille de mon départ.
Ouais.
Je suis donc chez une amie, à moi, et dont les parents avaient vécu au Tchad, qui sont français.
Ok.
Donc voilà, donc ils connaissent le Tchad,
ouais.
Ma famille, etc. Et donc j'étais à dîner chez elle, et dans sa cuisine, je tombe sur quelqu'un qui me pose plein de questions sur mes cheveux. Je me disais, mais monsieur de 50 ans avec ses petites lunettes.
Qui te pose des questions sur tes cheveux.
Sur mes cheveux, et j'étais un peu.
Ouais.
J'avais pas trop compris c'était qui.
Quoi, oui, qui es-tu, monsieur, qui me pose des questions comme ça.
Ouais. Et en plus, j'avais une journée de ouf, j'avais pas à manger, j'avais faim. Donc j'étais contente qu'il y ait un truc dans la cuisine.
Comme là maintenant, parce que tu n'as pas mangé non plus, j'espère que ça va. Est-ce que tu survis?
Non, ça va, je cours depuis 5 heures du matin, mais
tout va bien.
Mais c'est pas bien.
Et là, il y a une fille qui te pose des questions pour un podcast.
et donc pareil, donc j'avais faim, et puis en plus j'étais allée faire du sport juste avant, donc j'avais faim. Et là je me disais ouais, et en fait il m'a demandé ce que je pensais de l'industrie de la cosmétique. Je lui ai dit ouais, c'est très polluant, c'est chimique, et en particulier L'Oréal. Je lui ai parlé de, je lui ai dit le mal que je pensais de cette grosse boîte, et en fait c'était le directeur général de L'Oréal pour l'Afrique.
Très bien. Bonjour à lui. Bonjour. Ah oui. Il s'est basé où, L'Oréal, pour l'Afrique?
À Johannesburg.
À Johannesburg aussi. Ok, d'accord.
Et donc c'était comme ça. Et donc, quand je partais...
Bonne entrée en matière. Hein.
Excellente entrée en matière. Quand je partais, il m'a dit, bonne chance à Harvard, tu restes en contact. Il m'a donné sa carte. Très gros moment de solitude.
Oui. Non, mais finalement, vous n'êtes pas si mal. Hein. Non, c'est faux. Voilà.
Et donc ça, c'était excellent. Donc, je suis restée en contact avec lui.
Oui, donc un an plus tard, tu finis.
Je finis à L'Oréal.
Ouais, d'accord.
Ouais.
Et donc, tu rentres en France.
À Paris.
Ouais. Tu rentres à Paris.
Ouais.
Et au bout d'un moment, il faut trouver un boulot. Il faut travailler.
Oui, donc je rentre en fait justement directement chez L'Oréal.
Ah, directement, tu savais que
j'avais... Ouais, non, mais en fait, non, j'ai eu le job pendant que...
Que tu étais
à Harvard. J'ai eu le job 6 mois avant d'avoir mon diplôme.
Ah oui, ils t'ont dit, on t'attend.
Ouais, ouais. Quand t'as ton diplôme et tout, quand tu es prête, tu viens. Ouais.
Ah, ça, c'est génial. C'est le meilleur...
Ouais. Ouais.
Tu te poses pas de questions, genre, alors où est-ce que je dois postuler? Comment je fais un CV?
Ouais.
Tu sais, souvent, c'est le problème des gens quand tu finis l'école, c'est que tu sais pas où tu vas te retrouver après, comment chercher, où je vais, que fais-je. Ok, donc tu rentres directement chez L'Oréal. Et puis, j'ai lu qu'en fait, c'est un parcours très... en fait, c'est du bas de l'échelle en haut de l'échelle, leur parcours.
Qui est excellent. C'est extrêmement formateur parce que moi, j'ai commencé ce qu'ils appellent le stage route.
Le stage route.
Stage route, ouais. C'est très l'Oréalien. Et je commence
très l'Oréalien.
Ouais, c'est l'Oréalien. C'est l'Oréalien. Moi, je suis ex-L'Oréalienne. Voilà. Pour tous les Lauréaliens qui nous écoutent, salut, salut. Voilà. Et donc voilà, donc tu commences.
Donc le parcours à haut potentiel, donc tu veux vraiment. J'ai vu que tu as commencé donc vendeuse chez Sephora.
Exactement.
Et en fait, en 4 ans, tu as fait 7 postes différents, mais du bas jusqu'à. En fait, le but, c'est de te faire arriver le plus rapidement possible, entre guillemets, à un poste de direction en quelques années.
Exactement.
Donc tu as commencé vendeuse chez Sephora.
Ouais, enfin vendeuse, après j'étais là à 7h du matin à remplir le linéaire, quoi, de mascara. Ouais. Et je te dis pas la différence entre passer du bureau, tu sais, au coin du cabinet d'avocat, à ensuite les Harvard et venir mettre des mascaras à 5h du matin.
Ah là, tu dois te dire, mince.
Ouais. Mais j'ai adoré, je me suis éclatée. Et si jamais quelqu'un te dit qu'il y a quelques années, ils étaient chez Sephora et qu'ils se sont fait mal maquiller, c'était probablement moi. Les gens me demandaient d'en mettre des eyeliner, je savais même pas par où commencer. Donc c'était vraiment le crash. En fait, c'était vraiment, en fait, cette expression, en fait, quand tu la traduis en français, c'est tu te mets dans le bain, soit tu nages, soit tu coules.
Ouais, c'est
donc voilà.
Bon. Ouais. Toi, c'était aléatoire, on va dire.
Mais moi, j'adorais. Je faisais tous les Sephora d'Île-de-France.
Ah oui, donc tu t'étais en
plus, j'avais une voiture, voilà. Okay. J'étais commerciale, en fait.
Ok.
Ouais. Donc à un moment donné, je faisais des formations, donc j'ai appris à maquiller. Les autres, c'est très différent de se mettre son eyeliner en soi et de le mettre et sur
quelqu'un d'autre, c'est hyper compliqué.
Et son œil qui tremble.
Ouais. Parce que, bah, arrête de bouger. Ouais. Voilà. La violence. Attends, je t'ai mis le doigt dans le.
Et c'était toujours aussi très drôle parce que les gens, en fait, tu vois comment les gens traitent les gens dans ces magasins-là. Et moi, je me suis rendu compte, parce qu'évidemment, par son sage, j'avais fait avoir par son sage que j'ai avocat.
Ah, bah oui, c'est pas marqué sur ta tête voilà, que t'as un parcours.
Ouais, et du coup, j'avais trouvé ça toujours très intéressant. J'avais trouvé. Et puis, je pense que c'est pour ça aussi que L'Oréal le fait faire, et c'est pour ça, je crois que c'est une excellente école de passer par là, en fait, vraiment par le bas de l'échelle, en fait.
Pour comprendre quand t'arrives en haut ce que peuvent ressortir. Parce que c'est souvent ce qu'on dit, c'est dans les grands groupes, etc., que le chef prend une décision parce que son école de commerce ou l'ENA ou Sciences Po lui a dit qu'il fallait décider comme ça et manager des équipes comme ça. Mais en fait, sur la réalité du terrain, comment ça se passe, parfois c'est tellement déconnecté qu'en fait, les décisions qui viennent du 36e étage ne s'appliquent pas à ceux qui sont au rez-de-chaussée. Et donc forcément, ça ne peut pas marcher. Et directement, il y a un petit caillou dans le mécanisme. Quoi.
Exactement, voilà. Et moi, j'étais donc sur Sephora, mais j'ai aussi passé du temps avec les commerciaux qui étaient sur Monoprix. Par exemple, quand il fallait refaire les nouveautés, ce genre de trucs, je suis allée faire des inventaires à 5h du matin au Monoprix des Champs-Élysées avec la personne qui s'occupait de ça. Et aussi, j'étais un peu à Carrefour, au Champ.
D'accord.
Donc, pour aller voir un peu aussi à remplir des linéaires, tout le matin, des shampoings, des gels douche. Ouais.
Ok, c'était bien comme expérience.
Moi, j'ai adoré. Parce qu'en plus, je savais que pour moi, c'était une seule fois. Mais c'était aussi très formateur. Du coup, je suis très vite rentrée dans le produit, et puis aussi commercial. Parce qu'à un moment donné, c'est très bien d'avoir des produits, mais il faut les vendre.
Oui.
À un moment donné,
Il faut
les placer, il faut être sûr que tes linéaires soient propres, qu'ils ne soient pas poussiéreux, qu'il y a plein de choses, hein, surtout sur du maquillage, parce que chez Sephora, c'était du maquillage.
Ouais.
Le maquillage, ça devient sale très vite, parce que les gens, les gens font n'importe quoi.
Tu vas chez Sephora, tu te mets dans une allée, tu regardes les gens sont sales.
Et ils font n'importe quoi, ils mélangent les couleurs, les trucs.
C'est un bazar innommable, quoi.
Ouais, exactement. Donc, moi, je passais derrière le bazar.
Très bien.
Et je trouve aussi que ça te rend humble, quelque part. Parce que tu vois un peu, donc comme je disais, c'est très différent le monde des cabinets qui sont très conservateurs. Harvard qui est très 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 élitiste.
Tu gères l'humain lambda différent. Parce que Sephora, t'as tous les prix.
Ouais.
Tu peux acheter, t'as aussi bien des parfums qui valent 300 balles que quelqu'un qui a besoin d'acheter un petit liner de la marque Sephora qui coûte 11 euros. Mmh. Et donc, t'as tous les types de population et puis tous les types de politesse aussi et de
d'éducation. D'ailleurs, j'ai une histoire très drôle parce que c'était le Sephora à côté des Galeries Lafayette. Ouais. Il y a une dame qui est passée et qui me connaissait. Et qui connaissait surtout mes parents. Qui me disait « Ah, mais ça va, tu vas bien, moi je pensais que t'étais à Harvard. » Là, t'avais toutes les vendeuses de Sephora.
Harvard, qu'est-ce que
c'est dit? Ouais, de quoi elle parle, et puis j'ai dit, mais tu veux ça? Ah, mais c'est trop bien, il faut qu'on se revoie, tu vois ça à la maison, machin.
Et tes collègues, elles savaient que t'étais dans ce parcours au potentiel de
Je ne sais pas si tout le monde savait. Parce que tout le monde, en fait, même ceux qui viennent d'école de commerce, ils font ce parcours.
D'accord, ok.
Le stage route, ouais.
D'accord.
Ouais. Après, Je sais pas si tout le monde.
Ouais, tu sais pas si quel est le chemin ouais. après pour tout le monde. Ouais. Donc, du coup, ça dure combien de temps ça? Vendeuse, mise en rayon
6 mois.
6 mois. 6 mois. Et ouais. directement après, tu passes en développement.
Non, après, je passe sur France parce que c'était la France, ouais. donc le marché français. Donc sur des nouveaux projets qu'ils avaient de mettre des shop in shop. Par exemple, aujourd'hui, on le voit au Carrefour de Belle Épine. On voit une espèce de shop à l'intérieur du Carrefour, il n'y a que du make-up.
D'accord.
Oui, alors à Paris, il y a Maybelline et puis à Essie. Donc c'était, d'accord. Et à l'époque, c'était des maquettes.
D'accord, ok.
Donc okay. qui aujourd'hui est là, bien là. Et donc c'était de travailler sur ces projets-là.
D'accord.
Et aussi de travailler un peu, j'ai eu une chance extraordinaire, donc Raphaël Sabranega, si tu nous écoutes, bonjour. Et donc Raphaël, qui était à l'époque la directrice marketing de L'Oréal Paris, qui m'a pris sous son aile aussi.
D'accord.
Et qui m'a en fait vraiment fait comprendre comment marche une business unit.
Ok.
Donc elle m'a ouais. fait vraiment rencontrer la logistique, elle m'a dit que c'est très important quand t'as un truc de business, il faut que tu comprennes ta log, est très important.
Ouais.
Et puis aussi les commerciaux, mais vraiment tout de bien
comprendre l'organisation.
Tout l'organigramme, ouais. au-delà de juste être sur un poste.
D'accord.
Et c'est une femme très inspirante qui m'a vraiment montré
comment ça marchait, comment voilà, organiser, voilà. comment comprendre comment la mécanique entre tous mécanique. Ces gens et comment ça se ouais. ça fait en fait quelque ouais. chose qui marche quoi.
Qui marche et voilà. Voilà et que c'est que tu as le produit, tu as le truc, mais comment en fait elle m'a vraiment fait prendre, c'est la première personne sur là qui m'a fait prendre la big picture si tu veux.
Okay. Ouais. D'accord. Voilà. Et donc ensuite, j'ai lu que tu passes. Alors attends, chef de produit make-up L'Oréal.
Voilà, j'étais sur make-up.
Ouais, Biz Dev Maybelline Moyen-Orient.
Exactement.
Donc là, c'est. Tu Moyen-Orient, voyages
Afrique. Oui et non, en fait, pas beaucoup parce que c'était beaucoup de choses qui se passaient aussi.
À Paris directement. Ouais, à Paris, et ouais. puis tu prépares peut-être les visuels, les trucs comme ça. Ouais, puis, depuis Paris, mais adapté à.
Et pour Maybelline, ça venait de New York.
D'accord.
Parce que c'est la marque, elle est basée aux États-Unis. Oui. Donc en fait, ça passait. Donc nous, on était un peu le filtre, c'était ouais. parfois j'ai l'impression d'être une boîte aux lettres, faut le dire.
Donc voilà. Passe à ton façon.
Mais on avait aussi quand même développé des postes très des produits qui étaient très spécifiques au Moyen-Orient par exemple.
D'accord.
Et sur Maybelline, on avait travaillé sur des couleurs qui étaient très spécifiques pour le Nigeria par exemple.
C'est quoi alors des couleurs spécifiques pour le Nigeria?
Des couleurs, tu vas pas me croire, la couleur qu'ils utilisent le plus, une couleur qu'ils utilisent le plus, c'est la crème. La couleur très claire, la plus pâle, parce qu'elles font beaucoup de contouring.
Oui, d'accord. Ouais. Est-ce que et derrière, il y a tout ça, tout ce qu'on entend pour les blanchiments de peau, etc.
Oui, il y a aussi ça. Ouais. Là, on était sur le make-up, mais oui, il y a beaucoup sur
mais
le blanchiment
de peau. Mais ça peut aider, au lieu de te détruire la peau avec des produits chimiques, on va dire qu'ils vendent, machin dans les bouilles, etc., qui attaquent la peau, etc. Ouais, après, si c'est avec du contouring hyper clair, c'est peut-être
mieux.
Hein.
Non, mais en fait, elles utilisaient leur couleur de peau à elles, mais elles utilisaient le contouring pour créer des highlights.
Ouais, ok, d'accord. Ouais.
C'était un autre niveau de make-up, hein, par contre, là.
Waouh
ouais. Wow. Ouais, moi, c'était aussi ma réaction. Mais
pour
je
le
comprends
Nigeria, vous êtes sûr, mec?
Ouais, vous êtes sûr qu'on vend autant
de crème.
De couleur claire. De couleur crème. Genre, mais la couleur, là, genre beige, quoi. C'était le 001, c'était un des best-sellers.
Ah ouais.
Et pas la couleur cappuccino.
Oui, c'est ça. Ou un peu.
Ou je sais pas, noisette, caramel, ouais. Enfin les noms qu'ils leur donnent, ouais, c'est ça.
Les noms très étudiés.
Oui, exactement.
Et puis j'ai vu que tu travaillais pour une marque que je connaissais absolument pas, Dark and Lovely.
Oui, j'ai fait du dev pour Dark and Lovely.
Donc ouais. Ça, c'est ton premier. Le premier pas dans.
Le dev, j'ai commencé sur Elsef.
Ouais. Et ah oui, pour les cheveux. Pour les cheveux. Oui, l'huile miraculeuse, j'ai vu.
Ouais, l'huile extraordinaire.
L'huile. Ah, pardon.
Ouais.
L'huile extraordinaire.
Ouais, ouais.
Je crois que j'en ai à la maison.
C'est vrai.
Ouais. Ça, je vais, mais je la connais.
L'huile extraordinaire, ouais. C'est, okay. C'est une des franchises best-selling aujourd'hui.
Ouais.
Ouais. Et en fait.
Et ça t'a intéressé ça parce que les cheveux, ça te rapproche.
Ça me rapproche et.
Et on n'en parle pas, mais pendant que t'es en train de faire ça chez L'Oréal, dans ta tête. T'as toujours ta boîte
Toujours ma boîte,
en
mais
tête,
c'est
tout. Non, c'est...
Oui, je l'ai, mais j'étais tellement occupée que.
Ouais.
Ouais. Donc j'étais vraiment.
Focus sur ce que je faisais. Donc la première approche avec les cheveux, donc avec Elsev. Mm. Donc ensuite, donc cette fameuse marque Dark and Lovely,
oui.
que je connais c'est pas
que
du
je connais
tout.
Pas. C'est intéressant parce qu'en fait, cette marque, à l'époque, quand L'Oréal l'avait achetée, c'était le numéro 1 pour les afrodescendants
okay.
aux US. Et ensuite aussi en Afrique subsaharienne, c'est une marque qui a beaucoup de notoriété. Donc c'est la marque numéro 1. L'Oréal l'a racheté, je pense, au début des années 2000 ou fin des années 90. Donc ça fait un peu plus de 20 ans qu'ils l'ont.
Okay.
Et c'est une marque qui...
Et c'est pas vendu en France ?
Si, c'est partout.
Ah ouais ?
C'est dans tout, Château Rouge, Château d'Eau. Ouais, mais on le retrouve partout. Ouais.
D'accord. Ouais, mais peut-être c'est parce que j'ai pas porté attention non plus.
Ouais, mais je suis sûre que tu vas la reconnaître. C'est une marque qui a quand même beaucoup d'autorité. Quand on la voit, on la reconnaît.
D'accord, ouais. Ok. Donc, voilà. Ok. Et donc tu bosses sur le développement.
Sur le développement, donc là c'était du capillaire aussi.
Ok, ouais.
Ouais, donc c'était sur les marchés. Donc Dark and Ugly en fait parle aux Américains.
Ok.
Afro-américains et aussi à l'Afrique subsaharienne.
Okay.
Et c'est des marchés qui sont très différents quand même. Donc on parle à des...
Oui. Ouais.
Et aussi, il faut savoir que le cheveu de type afro, il y a plusieurs sous-catégories aussi.
Oui, c'est pas juste le cheveu, parce qu'on dit ça, c'est cheveux crépus. Donc ouais. C'est pas les femmes de l'Afrique du Nord n'ont pas les mêmes cheveux que l'Afrique centrale, que d'autres. Et puis il y a différentes façons d'en prendre soin aussi.
Exactement.
Puis il y a beaucoup de choses qui abîment, parce qu'il y a les défrisages.
Ouais.
Il y a aussi le fait de tresser.
Tous les appareils chauffants, de tresser en tirant, les extensions très lourdes.
Les mèches quand tu vas tisser, etc. Et qu'après tu dois défaire. Enfin, et puis c'est tout un... On va pas se mentir, les cheveux afro à traiter, à s'occuper, c'est un travail à temps plein.
C'est beaucoup, beaucoup de travail.
C'est beaucoup. Moi, je vois mes cousines, parce que j'ai des cousines qui sont sénégalaises, mes tantes se sont mariées avec des gens d'origine du Sénégal ou de Guinée.
Okay.
Et donc, mes cousines sont... ont des cheveux comme toi, les mêmes cheveux que toi. Et, c'est vrai que quand elles allaient se faire tresser, que nous on attendait, genre qu'elles aient fini, qu'au bout de 8 heures, genre putain, t'as juste une natte. Toute la journée, genre alors je mets un peu de crème et je tresse et je n'ai mais.
Ouais.
C'est long.
C'est très long et souvent les gens n'ont pas les bons gestes.
Ouais, et ça abîme encore plus les cheveux, etc.
Ouais.
Enfin, c'est un vrai. C'est un vrai soin à apporter pour que les cheveux ne s'abîment pas, etc. Il y a quand même beaucoup de femmes avec des cheveux qu'on dit crépus, qui ont les cheveux abîmés parce que c'est un peu n'importe quoi. Et puis bon, et puis en France, pour trouver des coiffeurs.
Les coiffeurs, ouais.
Qui savent aussi traiter ses cheveux, c'est quand même un peu compliqué.
C'est compliqué de trouver les coiffeurs, c'est aussi compliqué parfois de trouver les bons produits.
Ouais.
Et d'avoir les bons gestes, parce que tresser en soi n'est pas un problème, mais c'est de tirer. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est de la biologie. Le cheveu afro est le cheveu le moins bien ancré.
D'accord.
Ouais, en fait, il est moins profondément ancré qu'un cheveu, par exemple, asiatique. Le cheveu chinois est le plus profondément ancré.
D'accord.
Et le cheveu caucasien entre les deux. Ouais, et beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, ça veut dire qu'il a plus tendance à tomber plus facilement. Et c'est aussi le cheveu le plus fragile, parce qu'à chaque point de frisure, il y a un point de cassure. Et aussi à cause des frisures, justement, le sébum, contrairement à un cheveu lisse, où en fait le sébum arrive à voyager, de la racine jusqu'aux pointes, sur le cheveu afro, ils n'arrivent pas, parce qu'elle est vraie. Donc en fait, son voyage,
il s'arrête, des détours. Il ne peut pas... Ouais.
Okay. Donc en fait, et plus on a le cheveu long, plus le sébum a du mal à descendre.
Okay. Voilà.
Ouais. C'est de la science. Hein.
Ok. Ah oui, d'accord, je ne savais pas tout ça. D'où beaucoup des tatas qui ont les cheveux abîmés.
Cheveux abîmés, qui ont les alopécies, qui ont les
c'est
trucs.
Ça.
Qui,
ouais.
Et qui en fait, et continuent en se disant, je vais cacher en mettant les trucs.
Bah,
des perruques. Des
perruques,
Et il faut aussi savoir que les défrisages, ou même quand on tire les cheveux, enfin en les tressant, le cuir chevelu, à un moment donné, il réagit. Et il durcit pour se protéger.
Ah
du
oui,
coup,
parce
les
que
cheveux,
oui.
Ouais. Du coup, les cheveux, en fait, les follicules, ils sont moins irrigués, etc. Donc, il y a aussi beaucoup d'éducation à faire, en fait, sur les cheveux afro. Ouais.
Donc, tu t'occupes de cette marque, Dark and Lovely, et en fait, à un moment, tu pars de L'Oréal. Pourquoi ?
Ouais. Donc, juste après Dark and Lovely, j'ai eu mon job que je préfère, en fait, je pense, de tout ce que j'ai fait. Donc, j'étais Travel Retail Area Manager. Donc, ça veut dire, en fait, que je gérais le business du Travel Retail, donc de tout ce qui est duty free. Ouais, donc et dans un contexte complètement différent, puisque
mais comment ça se passe en fait? C'est genre t'es dans les aéroports ou dans les zones?
J'ai passé beaucoup de temps dans les aéroports. Dans les zones aussi de ce qu'ils appellent les borders, en fait.
Parce qu'il y a des frontières,
Des frontières, je me suis retrouvée dans des shops entre la frontière de la Moldavie et de la Roumanie, où ils n'ont jamais vu quelqu'un qui me ressemble, quoi.
Et ça aussi, devait leur faire où?
Et aussi, surtout avec mon nom de femme mariée, Petersen.
Oui, Petersen, ouais.
Ils ne s'attendent pas à voir quelqu'un comme moi. Et aussi les aéroports à Oslo.
Ouais.
Et aussi, quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est un gros business dans les bateaux de croisière.
Ah oui.
Ouais, donc les bateaux juste...
Et c'est en duty free dans les bateaux de croisière?
Ouais. Ouais, dans les bateaux de croisière, ouais. C'est un très très gros business.
Trop bien.
Ouais.
Et en gros, tu voyageais pour faire des déplacements de des produits que tu utilisais.
Oui, il y a des équipes sur place, okay. Mais aussi je voyageais pour aller voir les points de vente et rencontrer les commerciaux de l'autre côté.
Waouh, pour toute l'Europe ou pour
Non, j'avais, en fait, du coup, on était plusieurs air managers, donc on avait le découpé.
Donc, découpé le.
Donc, moi, j'avais la Scandinavie.
Ok.
Donc, la Suède, et puis, donc, quelques aéroports dans la Suède, et puis surtout la Norvège, et pas mal d'aéroports en Allemagne, dans Munich. Voilà.
L'Allemagne
Et aussi, donc, toute l'Europe de l'Est, les aéroports en Russie. Okay. Mon aéroport le plus loin était entre la frontière entre la Corée du Nord et la Russie. Je suis jamais allée.
Vladivostok là-bas au fin fond.
Merci.
Ouais, Vladivostok, c'est ça, oui.
Personne ne sait où c'est, mais voilà. Bah
oui, c'est tout au bout. Bah oui, ouais, c'est quand tu prends le transsibérien,
ouais,
c'est et que tu traverses toute la Russie. Tu arrives à Vladivostok, je crois que c'est la dernière.
On vendait des mascaras là-bas.
Voilà. Ah bah attends, on a le droit de se faire belle à Vladivostok.
Et aussi, j'avais tout ce qu'ils appelaient white space à l'époque. Donc, il y avait tous les aéroports, par exemple, l'Afrique du Sud. Et en fait, toute l'Afrique, c'était vraiment comme c'est comme white space.
C'est une bonne partie, un bon territoire à couvrir.
Et c'est un bon territoire.
Ouais. Et t'as passé combien de temps à t'occuper de ça? Comment t'as eu ce poste? Tu t'as postulé pour l'avoir à l'interne ou non? C'était une position
à l'interne, de toute façon, ils te font
et puis évoluer, ils te proposent ce qu'il y a.
Ils te proposent aussi en fonction de ce que t'avais envie de faire. Donc, et là, en fait, ce job-là, moi, j'ai eu parce que c'était le PDG de L'Oréal lui-même qui m'a dit, en fait, il faut aller faire du commercial maintenant. Il faut aller prendre un vrai job, un vrai PNL et voilà.
Et toi, le job de commercial, est-ce que ça te...
J'ai adoré, ouais. Mais là, c'était beaucoup plus que commercial, c'était un PNL. Tu vois, c'était de vraiment gérer un business, en fait.
Ouais. Okay. Donc, voilà. Et ça dure combien de temps, ça?
C'est le job où je suis restée le plus longtemps. Donc, je suis restée presque un an et demi.
Ok. Ouais, et pourquoi ça s'est terminé?
Bah, ça s'est terminé parce que, justement, quand j'étais sur ce job-là, je commençais vraiment à sentir que...
Là, c'était revenu l'idée,
Et j'étais un peu en point parce que mon prochain job aurait été d'être general manager, donc d'avoir un vrai job de patron de marque ou de pays, ou voilà. Et je me disais...
Ça ne faisait pas envie?
Ma boîte à moi, elle ne faisait plus envie. Ouais. C'était ça. Ouais. Mais j'étais vraiment arrivée à un point où je me disais, mais quelle voie je prends, en fait?
Ouais.
Et je me suis dit, si je ne pars pas maintenant, quand est-ce que je pars? Et aussi, si je deviens trop confortable ici, après, ça va devenir plus difficile de partir. Et aussi...
Oui, peut-être que quand tu arrives à un poste de general manager... Et que tu bâtis toute ton équipe pour t'aider, peut-être que le départ est plus compliqué aussi.
Non, je pense que chez Aura, ils sont suffisamment.
Ouais, de gens pour. Non, et peut-être toi, tu vois, si tu te. Ouais. Sur une marque que t'adores ou avec une équipe que t'adores, que tu t'organises bien, peut-être que le fait de partir au bout de tes rapidement après avoir fait le poste. Et puis tu sais, il y a peut-être. Je sais pas, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, cette fidélité, c'est-à-dire vous me donnez ce poste et puis moi je vous plante. Non, je sais pas. Peut-être. Non.
Non, pour moi c'était plus par rapport à moi-même. J'étais venue un
peu. C'est le moment.
Ouais, okay. Pour moi c'était le moment. Et je me suis dit, si je pars pas maintenant, je risque de ne pas partir du tout.
Okay. T'en parles avec ton mari?
Oui, évidemment. Ouais. Il me supportait et puis il était à fond
derrière toi.
Et c'était aussi le moment où lui avait l'opportunité de passer une année sabbatique en Nouvelle-Zélande. Et donc on s'est dit, c'est maintenant. Et c'était aussi le moment où, pour moi, c'était venu le moment de changer de poste.
Ouais.
Parce que c'était un an et demi, donc on commençait à regarder. Là, j'ai dit non, en fait, moi, je pars.
Et est-ce qu'ils t'ont dit vers où ils voulaient te mettre?
Oui, on a eu pas mal de discussions. Ouais. Et même quand j'ai dit, je vais partir, je vais lancer ma boîte. Pour le coup, ils ont été vraiment très top.
Ouais.
Ils m'ont vraiment aidé à bien partir.
Ok.
Donc, voilà. Et je trouve que c'est toujours tellement bien de pouvoir bien partir, en fait.
Ok, donc ça s'est bien passé, bien, ouais. Super équipe,
ouais.
Et là, tu pars en année sabbatique, c'est-à-dire tu fais rien ou...
Je bossais tout le temps. En fait, j'ai bossé tout
mais
le temps.
Mais tu pars en Nouvelle-Zélande, depuis la Nouvelle-Zélande?
Ouais, depuis la Nouvelle-Zélande.
Ok,
ouais. J'ai énormément bossé tout le temps à la Nouvelle-Zélande, et c'est là où j'ai fait le business plan, c'est là où je me suis rendu compte que donc... le fameux chébé du Tchad, les petites graines n'ont jamais été utilisées en cosmétique moderne. Mm-hmm. Et c'est très complexe puisque tout le réseau que j'avais était de l'autre côté du monde pour trouver les bonnes personnes pour commencer à mettre par exemple Nagoya en place, etc. Ouais. C'était très compliqué. Enfin, à cause de... Et mon mari, il rigole encore, il disait... Moi, le matin, je me réveillais à 8h et c'était quand sa loi allait se coucher parce que c'était 20h en Europe.
Ah ouais. Ah bah oui, c'est vrai, ouais.
Ouais. Ouais. Du coup, mais à un moment donné, je me suis dit que c'était pas possible. J'ai rééquilibré.
Il faut en profiter un petit peu de ce ouais. voyage.
Les dernières semaines, je me rappelle, en Nouvelle-Zélande, j'avais pris le mois off et c'était le meilleur mois en fait. En Nouvelle-Zélande. Là, j'avais tout mis de côté, pas complètement, parce que quand on est entrepreneur, c'est très difficile de complètement fermer. Ouais. Mais,
Et donc tu t'arrives, donc en revenant au début de ton année sabbatique, donc tu pars de chez L'Oréal. Mm-hmm. Et là, en fait, comment tu. Donc tu sais que tu veux monter ta boîte de cosmétiques. Mm. Tu sais que tu as envie d'utiliser les rituels de beauté qui t'ont été transmis par ta grand-mère et ton arrière-grand-mère. Mm. Donc, notamment l'utilisation du chébé du Tchad. Je vais retrouver le nom scientifique. Le croton
gratissimus.
Le croton gratissimus. Voilà, donc tu sais que tu veux monter une boîte autour de ces rituels de beauté. Mm. Comment on s'y prend? Par quoi tu commences à 10 000 km de distance? Quels sont tes premiers... Parce que j'imagine, donc, ouais, ok, je vais monter ma boîte, mais je commence par... Comment on commence par où?
Mais pour moi, il y avait plusieurs choses qu'il fallait trouver et trouver les bonnes personnes.
Ouais.
Donc, en fait, quand je suis partie de L'Oréal, j'avais quand même eu un mois ici à Paris et puis un autre mois en Allemagne. Donc, j'étais quand même encore en Europe où j'étais...
Donc, t'as commencé à faire tes recherches.
Exactement.
T'en as parlé à tes parents aussi du fait que tu voulais monter ta boîte autour du chébé du Tchad ou des rituels de beauté.
Ouais.
Et tes parents, ils étaient aussi...
Je pense que c'est une folie. Il pense toujours.
C'est parce que je me dis, tu sais, après le parcours, ma fille, elle fait ça. Vas-y, j'ai noté. Les parents, elle fait Sciences Po, elle a fait du droit, elle a fait. Et là, genre, quoi? Entreprendre, c'est-à-dire.
Ouais, voilà.
D'accord.
Donc, ça
okay.
pas.
Ok, bon. Ouais. D'accord, donc il faut trouver les bonnes personnes.
Ouais, il faut trouver les bonnes personnes. Surtout d'autant qu'en fait, quelque chose que j'ai pas mentionné, quand je suis partie de. D'Harvard, le Tchad était pour la première fois au Conseil de sécurité aux Nations Unies. Il m'avait proposé un poste qui était quand même la conseillère là-bas. Donc c'était quand même d'être numéro 2 en fait, de l'ambassade à New York.
En plus, il t'avait repéré parce qu'on ne l'a pas dit, mais tu es la première Tchadienne,
allez, Harvard, ouais.
Ressortissant Tchadien, à être diplômée de Harvard.
Ouais. Donc ressortissant tout court, pas je suis.
Ouais. Ouais. Il t'avait repéré.
D'ailleurs, la petite histoire, apparemment, le président lui a dit « Ah, mais... enfin, on a un Tchadien à Harvard. » Il a dit, il est où? On a dit, c'est elle.
Voilà.
C'est elle.
Fierté supplémentaire.
Ouais, j'adore, c'est elle. J'étais pas là, donc je sais pas si c'est Urban Legend ou si c'est vrai, mais c'est elle.
C'est voilà. Elle, c'est une femme.
Voilà.
Ouais. Ok. Bon, donc tu cherches les bonnes personnes. Comment tu les trouves?
Mes bonnes personnes, mais plein de choses. LinkedIn, okay. Et aussi à l'ancienne. Hein, j'ai regardé dans les trucs professionnels et puis aussi du bouche à oreille.
Qu'est-ce que tu as cherché en premier?
Au début, je ne m'étais pas rendu compte que LinkedIn n'existait pas. Donc,
d'accord.
En fait, qu'il fallait tout créer.
Toi, tu avais les recettes de ta grand-mère et de ton arrière-grand-mère,
voilà.
Donc tu savais qu'il y avait certains produits.
Je savais qu'il me fallait du croton gratissimus.
Okay.
Mais je me suis imaginé que c'était comme tous les autres ingrédients. Tu appelles un laboratoire d'ingrédients
et
tu lui dis, voilà, il te dit, voilà, t'es le fournisseur là. Sauf que aucun fournisseur n'a du chébé du Tchad, quoi. Aucun fournisseur.
Et bon, je sais pas ce que c'est, madame.
Ouais, ah. Voilà. Ça, et puis là, même en regardant, donc, est-ce qu'il y a database, on peut regarder le nom des ingrédients. Croton gratissimus n'existait pas comme ingrédient cosmétique.
D'accord.
Il n'y avait rien.
Alors que pourtant, c'est utilisé au Tchad de façon traditionnelle depuis des millénaires. Tout le monde le connaît, sauf la cosmétique mondiale.
Voilà, tout le monde le connaît au Tchad. Et même en Afrique, c'est maintenant que les gens commencent à connaître.
D'accord.
Il y a 3 ans, 4 ans.
C'est une plante endémique ou du Tchad ou non, c'est un peu
du
présent.
Du Tchad, et ce qui est intéressant, c'est que ça, ce sont des petites graines.
Je mettrai des photos sur le site internet. Ouais.
Voilà. Et celle-là aussi, c'est du croton gratissimus
qu'on
a récolté en Afrique de l'Ouest.
D'accord.
Donc, c'est même non scientifique, mais c'est pas du tout la même variété.
Elles n'ont pas la même tête
non,
en plus.
Mais c'est même
alors, celles du Tchad, elles sont petites.
Ouais.
Elles sont beige dorées.
Ouais.
Toutes petites, tout mignon, des toutes petites graines. Et celles de
l'Afrique
de l'Ouest, c'est des grosses.
Ouais, c'est des gros. Ouais.
Des gros noyaux marrons.
Ouais, ils sont un peu noirs. Ouais,
et c'est les mêmes propriétés?
Pas du tout.
Pas
donc
du tout.
Du coup, on a fait, les analyses d'ADN. On a aussi fait l'analyse phytochimique. Et celle-là, c'est la meilleure en fait. C'est
d'accord.
Tchad. C'est la plus concentrée. Donc, parce qu'elles sont plus petites les graines, parce que le Tchad est très sec.
D'accord.
Aussi, donc, il y a moins d'eau. Et du coup, les graines, elles sont
plus
concentrées.
Plus
petites, ouais.
D'accord.
Ouais. Donc, et plus concentrées, donc en actif aussi.
Donc toi, tu avais d'une certaine façon déjà les recettes. Et tu t'es dit que directement, tu voulais faire une crème pour les cheveux.
Bon, moi, je voulais faire un truc leave-in. Parce que chez Bear, en fait, c'est un leave-in. Et je voulais aussi commencer avec un seul produit pour plusieurs raisons. Parce qu'il y avait toute l'éducation à faire autour de l'ingrédient.
Ouais.
Et de l'histoire. Et puis aussi, moi, ma boîte, elle est 100% autofinancée. Donc, c'était aussi une façon de...
Tu peux pas te lancer dans la production de 500 produits d'un coup, quoi, aussi.
En fait, j'ai tout mis. J'ai mis tout ce que j'avais comme économie.
Allez, on fait all-in, on est au poker.
Et, ouais. Et donc, du coup, pour moi, d'un point de vue purement business, le risque était moindre que de faire 50 produits, quoi.
Ouais.
Parce que quand on fait de l'entrepreneuriat, en fait, c'est... Il faut être super optimiste et mais on n'a aucune garantie.
Ouais. Voilà. De façon très basique, tu crées ta structure en France, en Allemagne, d'accord.
La boîte est allemande.
Voilà, donc tu crées ta structure juridique. Alors, je ne connais pas du tout le droit allemand. Je sais qu'en France, c'est assez facile. Tu prends un avocat, il te rédige des statuts, etc. Ouais. Voilà, donc tu crées ta société comme ça. Mais bon, ça, a priori, ça ne pose pas vraiment de problème. C'est qui les premiers pour l'organisation de ta boîte que tu prends un comptable?
Oui, un comptable. Ouais.
Un comptable, voilà.
D'avoir un avocat référent aussi pour la propriété intellectuelle, enregistrer les marques, très important, être sûr qu'on peut utiliser les marques comme tu dis, dont notamment mon nom.
Ouais.
Et aussi.
Pourquoi tu as choisi.
Mais en fait, c'était pas le nom de la marque, c'était pas du tout Salwa Petersen.
Okay.
C'est ma designer qui a beaucoup insisté.
Okay.
Qui m'a dit en fait, c'est toi, c'est ton histoire.
Et tu t'es pas posé la question parce que Petersen, c'est ton nom de femme mariée?
Oui, bah, et la raison pour laquelle je l'ai utilisé, et pas Salwa Salé, qui est mon nom de jeune fille, c'est parce que le nom de domaine Salwa Salé n'était pas disponible.
Ah,
c'est ça la vraie raison.
D'accord, ok. Donc Salwa Petersen, ton mari, il doit être content.
Ouais. Et aussi, mon mari est mon co-founder. Je trouvais ça très beau d'avoir deux noms. Donc, en fait, le vrai nom aurait dû être Salwa et Nils Petersen. Okay. Mais c'était trop long.
C'était trop long, d'accord. Donc, que Salwa Petersen.
Et Nils, il n'avait pas envie d'être.
Mais on n'oublie pas Nils.
Il ne voulait pas être sur ta carte.
D'accord, ok.
Et elle avait beaucoup insisté, ma designer, parce qu'on travaillait, puis elle disait, mais c'est tellement votre histoire, elles sont deux, elles ont beaucoup insisté.
D'accord.
Et c'est Sylvie de France, qui est une dame extraordinaire, une très grande dame. C'est elle, notamment, qui a dessiné la pomme de l'Hôtel Olympica.
D'accord.
Le flacon.
Ah oui, oui. Comment ces gens, tu les as eu en contact? Enfin, c'était important pour toi dès le début de prendre.
Oui, pour moi, c'est très
designer.
Important d'avoir le bon designer parce que je voulais pas aussi tomber dans les clichés de trucs ethniques, machin. Donc, trouver un designer à qui je peux briefer, évidemment, il faut les nourrir, lui donner cette vision. Et en fait, Sylvie et Bénédicte donc, sont arrivés à faire quelque chose d'encore plus que ce que moi j'avais imaginé.
D'accord.
Et surtout, quand on vend de la beauté, on vend aussi du rêve. C'est très important d'avoir les bons designers.
Ouais, et puis d'être quali, de montrer que c'est pas une marque. Voilà, parce que t'as des marques qui se vendent très cher, mais dont le packaging, tout ça, fait très bas de gamme et donc n'attire pas, tu vois.
N'attire pas, voilà.
Voilà, donc il faut aussi être cohérent dans ce que tu proposes. Ok, donc des designers, un comptable, un avocat.
Ouais, et évidemment un formulateur.
Ah oui, bah voilà, parce que toi, t'as la recette. Comment tu le trouves, ça?
Mais d'ailleurs, pas la recette. Pour moi, c'était une inspiration. Hein.
D'accord, donc, ok. Voilà, tu savais que ta grand-mère et ton arrière-grand-mère, elles utilisaient ça, qu'elles mélangeaient avec différents beurres.
Des huiles, des beurres naturels.
Mais c'est vrai que pour passer le stade de « je vais le vendre à l'international », il faut un truc un peu plus...
Et le mettre aux normes, parce que... Et heureusement, d'ailleurs, pour nous, en Europe, les cosmétiques font partie du code de santé publique.
D'accord.
Donc, il y en a qui passent entre les filets. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas vendre n'importe quoi aux consommateurs. Ce que moi, je trouve génial. Et donc, du coup, nous, en créant cette filière, on avait tous ces éléments à prendre en compte.
D'accord.
Donc, en fait, on a dû faire accepter l'ingrédient comme ingrédient cosmétique.
Ouais. C'est compliqué, ça? Comment ça se passe?
Ouais, c'est compliqué. Il faudrait un podcast entier juste pour ça.
Non, mais en
résumant, 3 ans et demi.
Ouais. Ah oui, 3 ans et demi pour le faire accepter.
Ouais,
ah ouais. Et puis, c'est pour l'Europe, mais est-ce que, par exemple, ça vaut aussi pour les États-Unis?
Non, aux États-Unis, on a fait une procédure.
Autre chose. D'accord.
Sachant qu'ils sont beaucoup moins stricts que les Européens. Une fois que c'est passé en Europe, ça passe partout.
Hein. D'accord.
Ils sont très stricts. Donc, du coup, on a dû créer la filière. En plus, nous, on est éco-cert. Donc, c'est encore plus compliqué. Et moi, je voulais absolument avoir un ingrédient qui soit 100% naturel. C'est le cas aujourd'hui.
Ouais.
Conforme à EcoCert. Voilà. Et donc, on n'a pas utilisé, par exemple, des solvants alcool ou pétrochimiques. Quand on a fait l'extrait. Parce que nous, ce qu'on a fait, en fait, avec ces graines-là, qui traditionnellement sont torréfiées et réduites en poudre au Tchad et que les femmes appliquent en cataphase.
Ça pousse dans une région spécifique ?
Elles poussent dans différentes régions, mais elles ne sont pas toutes pareilles. Donc nous, on a identifié la meilleure région, les meilleures.
Voilà, ouais, et on continue par des tests, tu vois où sont les plus qualitatives.
Les plus qualitatives,
etc. Ouais.
Et par exemple, on sait qu'en fonction de la quantité d'eau qu'on donne à l'arbustre, on n'a pas la même qualité de
plantes. D'accord. Okay. Ah oui, oui, donc c'est très, il faut...
Ouais, c'est très précis. Et là, on apprend tous les jours un peu plus. Hein.
D'accord. Ok. Ouais. Donc, j'imagine avant de trouver le formulateur, de faire valider l'ingrédient, il faut que tu trouves au Tchad, là où tu vas te fournir,
en
graines. Et donc, ça, quand ça se fait, j'imagine que tu y vas.
Oui, j'y vais.
Ou tu as des gens sur place qui...
Aussi.
Ouais.
Et je vais travailler avec des profs d'université.
Ah oui, des Tchadiens, voilà.
Donc, Tchadiens, Béninois, Allemands, Français. Et du coup, qui ont eu des étudiants qui sont allés sur le terrain pour aller vraiment... Mais c'était un travail scientifique, en fait, avant tout. C'est pour ça que j'insiste souvent en disant que nous, on est vraiment prouvés par la science.
Ouais.
Et qu'on est vraiment backés par la science, que c'est de la R&D qu'on a fait. Mm-hmm. Et en fait, moi, je pourrais théoriquement déposer un brevet sur l'extrait qu'on a fait. Ouais.
Tu comptes le faire ?
Je ne sais pas. Une des raisons, c'est qu'une fois qu'on a un brevet... première chose, l'information elle devient publique.
Ouais.
Et deuxième chose, c'est qu'on a un temps limité sur quand est-ce qu'on peut l'exploiter.
Oui.
Et là, on n'a pas fini, comme je dis, en fonction de l'eau.
T'es toujours en train de chercher la bonne, vraiment le dosage qui rendra le.
Pas le dosage, mais c'est plus sur la plante. Parce que quand les graines et trucs.
Pour qu'elle soit le plus performante et qu'elle permette aux graines d'être le plus concentrées ou de meilleure qualité possible.
Voilà.
D'accord.
Et
tu penses que ça va prendre combien de temps pour développer ce. Pour finir. Pour trouver.
Je crois que c'est continu.
C'est sans fin, ouais.
Non, c'est sans fin, ouais. Là, ce qu'on a est très bien, est étonnant, mais très efficace.
Ouais.
Mais pourquoi ne pas aller chercher un peu plus loin si on peut.
Bien sûr, toujours trouver l'excellence. Toujours,
aller plus loin. Sachant qu'après, c'est un débat, mais aussi on rentre dans toute la question. En plus, ce sont des graines qu'on utilise pour être sûr qu'on préserve la biodiversité, de ne pas sur-récolter, mais aussi de ne pas surplanter le reste de l'écosystème. Donc, en fait, c'est des questions qui sont très, très, très complexes, en fait, après, une fois qu'on rentre dedans.
D'accord.
Et donc, moi, je travaille aussi beaucoup avec African Parks Network, à qui, d'ailleurs, on reverse
2% de votre chiffre d'affaires.
Voilà. Exactement, depuis le premier produit vendu.
D'accord, c'est pour la protection, en fait, de différents parcs nationaux.
Des différents parcs nationaux, aujourd'hui, donc, on commence par le Tchad, et on a un projet spécifique avec eux, qui est l'alphabétisation des femmes. Et la scolarité des petites filles.
Ah, on revient à tes...
À mon rêve de ce que je voulais faire quand j'avais 24 ans à la Banque mondiale.
Ah ouais. Et puis là, tu le fais grâce à Salwa Peterson et en exploitant de façon raisonnée et raisonnable une plante du pays, du Tchad, etc. Ouais. Ok, donc pendant 3 ans, vous avez fait de la littérature scientifique, de l'étude.
Beaucoup d'études et beaucoup de façons de faire l'extrait.
D'accord.
Parce qu'aujourd'hui, cet extrait qu'on a fait, comme je disais, elle est 100% naturelle. Et on va chercher toutes les molécules actives.
D'accord, dans le chébé.
Ouais, de la graine de chébé. Donc voilà, toutes les molécules actives de la graine de chébé. Et
ça a été facile de trouver un laboratoire qui t'a extrait ça, qui fait le...
Ça n'a pas été évident, mais je suis allée chercher quelqu'un qui partait à la retraite.
et qui fait sa dernière mission.
Exactement, c'était ça. Et qui, depuis les années 70, faisait déjà des extraits de plantes.
Okay.
Qui a son propre jardin botanique. En France, avec qui on a trouvé un accord et qui était aussi passionné et qui était très étonné.
Et là, tu lui as même bonjour, vous connaissez le croton
Gratissimus,
jamais entendu parler.
Et en fait, lui s'est renseigné via les filières qu'il connaît, puisqu'il en a construit
beaucoup,
pas mal. Et en fait, il me dit, inconnu au bataillon. Il me dit, en fait, il faudra que vous créiez votre propre filière. Et comment est-ce qu'on crée une filière cosmétique ?
C'est ça ? Vas-y, explique-nous comment on crée une filière.
Comment on crée une filière cosmétique ? Moi, j'appelle en même temps, je dis, j'ai une question, comment on crée une filière cosmétique ?
Le mode d'emploi.
Excellente question, je ne sais pas, mais tu vas le faire.
Donc, voilà. C'est trop bien parce qu'en plus, maintenant, c'est un cas d'école que ton professeur à Harvard, là, sur le business beauty, il peut prendre un exemple. Alors, voilà comment le...
comment est-ce que...
C'est ça. Voilà. Ok, et donc, tu l'as fait.
Et donc,
et comment tu t'y prends?
Comment on s'y prend? Déjà, très tôt, j'ai vu qu'il y avait Nagoya, donc c'était important pour moi.
Mais donc, les accords de Nagoya, c'est le traité, accord?
C'est les accords.
Les accords de Nagoya qui, en gros, stipulent que l'exploitation de la biodiversité respectueuse. Mmh. En gros, en très très gros, avec des gros sabots, faire les choses correctement, quand tu exploites une ressource naturelle.
Exactement.
Et aussi les humains qui sont dans cet environnement et qui travaillent aussi pour l'exploitation de cette biodiversité. En très gros.
C'est exactement voilà. ça, en fait. C'est donc, ça. C'est ce qu'on a fait. Et aussi, il a fallu trouver les bons ingénieurs agronomes.
Ouais.
Pour cela, il a fallu comprendre la plante. C'est une plante que personne n'a jamais étudiée. Donc, il y a un peu de biographie ici et là. Donc, on a fait tout ce qu'on a pu trouver. Donc, les étudiants dont je parlais ont écrit des rapports parce qu'eux, ils étaient sur le terrain pendant 1 an, 6. Ils sont allés observer. On a eu le support de la GTZ, donc l'agence de développement allemande, qui nous a passé des caméras ultra sophistiquées, des appareils photo, qui permettent en fait d'avoir le GPS exact de la photo et de savoir à quelle saison, à quel jour, quelle heure. Et surtout, où exactement se trouve tel arbre. Donc, on a pu comparer en fonction des différentes régions.
La différence. Les différences de développement.
On avait des petits lots de CB de différentes régions. Et on a pu les comparer aussi.
D'accord.
Pour voir quelle est la différence. Et c'est comme ça qu'on sait telle et telle et telle a telle propriété. Et telle est mieux que l'autre.
Ok.
Voilà. Et on a fait des pépinières aussi. Que je peux te montrer.
Ok. Je mettrai les photos sur le site internet. Voilà. Pour que les auditeurs puissent voir les pépinières.
Des pépinières.
Ah oui.
Ouais, on est allé très loin.
D'accord. Pour tester après, toi, dans des environnements contrôlés, comment ça poussait, si tu arrivais à reproduire...
Ou à faire mieux. Voilà.
D'accord.
Moi, les gens souvent me demandent, mais comment est-ce que tu as construit ta filière? Je dis, moi, j'ai planté la plante. Mais littéralement.
Et étudier du début, de planter la graine jusqu'à
qu'on puisse
récolter.
Qu'on puisse récolter. Et puis aussi, même pour la récolte, les botanistes, ce que j'ai appris des botanistes, c'est qu'on ne récolte pas n'importe comment.
Ouais.
Il faut attendre que la plante, elle soit prête et qu'elle commence en fait à tomber. Et c'est là que tu sais. Parce que
pour
ne pas non plus faire du mal à la plante, etc. Donc après, c'est passionnant. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement passionnant. Je me suis éclatée. J'ai lu toute la bibliothèque.
Ok, donc tu t'étudies en profondeur la plante. En même temps, tu arrives avec ce monsieur qui fait des extraits de plantes à prouver certaines vertus du chébé. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort, en fait, lui, quand il l'analyse? Qu'est-ce qu'il en ressort concernant
chébé? Très riche en antioxydants.
Ok.
Et aussi, on a vu, quand on a fait les tests d'efficacité ensuite dans le soin, qu'il y a une action réparatrice, fortifiante, anticasse, etc. Surtout, donc, l'extrait est très concentré. Comme on va vraiment chercher les molécules actives, on arrive vraiment... C'est de la haute tech. Hein.
Okay.
On parle de cosmétiques naturelles, mais là, on parle vraiment de très, très haute technologie, en fait.
L'innovation technologique pour vraiment avoir le...
Et comme je dis, on peut avoir un brevet si on le souhaite.
Ok, donc alors tu sais que c'est un produit qui marche, qui a plein de vertus, tu as étudié la plante, tu sais comment la récolter. Après, je suppose qu'il faut une équipe pour s'occuper des récoltes.
Des récoltes, oui.
Voilà.
Donc en fait, nous là, une des chances qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup d'arbres de chébé sur les propriétés de ma famille.
Voilà. C'est déjà à la maison.
C'est déjà là. Okay. Et là, on en a planté encore plus.
Ouais. Donc, voilà. D'accord.
Et du coup, ce qu'on a fait, c'est de travailler avec des femmes qui sont allées pour la récolter. Et voilà, donc là, séchées au soleil. Donc, parce qu'elles sont séchées au soleil.
D'accord.
Et ensuite triées. Parce que quand on va les chercher, ça ressemble à ça. Il y a plein de petites tiges dedans.
Ouais.
Et en fait, on fait à 60% du volume. C'est pour ça qu'il montre, en fait, on perd
plus de la moitié. D'accord, ouais. Pour trier tout ça et enlever tous les petits...
Et les femmes, elles le font à la mano. Mais avec des outils qu'on a construits, en fait.
Ah oui, des tamis, des espèces de tamis géants.
Voilà, des tamis géants qu'on a construits à partir de palettes.
Ouais.
Et aussi avec ces tabacs qui sont très traditionnels du Tchad.
Ouais.
Voilà. Et ça crée des emplois. Elles sont payées 3 fois le salaire local. Et ça revient encore de redonner, en fait, aux femmes tout ce dont je te parlais, ce que j'avais envie de faire. Et aussi, à 20 ans, ce qui m'avait révoltée. Et qui finalement m'a fait passer de médecine à droit. Mais là, c'est pendant le... Ça se voit que ces photos, cette vidéo est plus récente, puisque c'est pendant le Covid.
Ouais.
Avec les masques. Voilà. Et ça crée des emplois. Donc, voilà.
C'est trop cool. Ouais. Et ces graines, une fois que tu les as récoltées, elles sont envoyées en Europe? Parce que tu parlais donc au tout début qu'il fallait trouver un formulateur. Comment on trouve un formulateur?
Un formulateur, déjà, y a, en fait, en France, on a la chance d'avoir quand même beaucoup de laboratoires.
Oui.
Et beaucoup de formulateurs. C'est quand même le pays de l'excellence sur tout ce qui est cosmétique.
Ah, bah la cosmétique, ouais.
Ouais, donc voilà.
Et c'est un mais j'imagine que toi, issue de la cosmétique, tu avais peut-être des gens,
oui,
des connaissances de labos plus...
Oui, voilà, ça se L'Oréal fait surtout tout en interne. Mais là, ouais. Voilà. Et puis aussi de voir ce que les gens, ce que les formulateurs ont créé par le passé.
D'accord. Ah oui, oui. C'est comme un nez que tu recrutes pour un parfum et tu sais qu'il a fait ça, donc tu sais que si.
Un peu le style. Et puis c'est de rencontrer les gens aussi. Okay. Et de voir c'est quoi le fit. Par exemple, même pour la designer, j'en avais vu quelques-uns. Et tout de suite avec Sylvie, il y avait ce côté-là. Ça passe.
Ouais.
Pareil pour le laboratoire de formulation, c'est tout de suite.
D'accord.
Sur les mêmes valeurs d'engagement, parce que c'est un des laboratoires pionniers, enfin, donc la formulatrice, donc pionnière dans tout ce qui est donc, green, la cosmétique végétale, naturelle, avant que ça soit la mode.
D'accord.
Donc voilà. Et qui a fait beaucoup de skincare, d'ailleurs, sur la texture de la formule, on voit, c'est une technologie de skincare, voilà, c'est pas du tout, sachant qu'en général le hair care c'est un peu le dernier, le skincare est plus avancé sur les techno et
Bah,
donc voilà, les auditeurs ne voient pas, mais c'est et tu parlais de nez, j'ai aussi travaillé avec le nez pour reproduire des parfums traditionnels du Tchad.
Ça sent bon. Désolé, les auditeurs, ça nous parle de d'odeur.
Ouais, voilà, donc des ça odeurs donc bon. Ouais, donc on a du c'est une odeur épicée, ce sont les encens, les
oui,
les parfums,
c'est ça, il y a un peu de fumée.
Il y a un peu de fumée, ouais, parce que c'est vraiment l'encens qui brûle.
Ouais.
C'est aussi un parfum qu'on a repris dans notre bougie qui vient juste de sortir aussi.
Ah oui, ça est divine. Je vais arriver, je vais sentir la bougie. Oui, parce qu'il faut le dire aux auditeurs, je suis arrivée ici, donc c'est dans l'agence de presse avec qui tu travailles. En fait, quand je suis arrivée, ils m'avaient préparé une petite table avec tous tes produits, superbement, avec toutes les graines, etc., pour que je vois de quoi on allait parler. Et donc, bien évidemment, la bougie, les parfums, les odeurs, les graines de chez B, les photos, enfin, donc, c'est trop joli, c'est trop bien fait. Donc, forcément, c'est plein d'odeurs, plein de... De souvenirs aussi, d'enfance, etc.
Bah, ça rapporte toi, si
pour moi, oui.
C'est parce qu'il y a aussi l'odeur de la terre.
C'est ça.
Il y a une odeur très spéciale qu'on retrouve en Afrique après la pluie.
Ouais.
On l'a, là.
Mmh. Ah oui, moi,
on
j'adore.
On l'a capturé, ouais.
C'est vraiment...
Je n'en parle pas d'habitude, mais ça faisait partie du brief. L'odeur après la pluie. Des terres africaines.
Donc, on était sur la formulatrice. Donc, tu rencontres cette dame-là. Tu lui parles du Chébé du Tchad, où il y a toute une bibliographie que tu as étudiée et tu as prouvé.
Mais en fait, il y a deux choses. Il y a deux choses. Hein. Il y a deux équipes scientifiques.
Ouais.
Donc, il y a l'équipe sur l'ingrédient qu'on allait chercher et qui a créé l'extrait.
Ouais.
Et il y a l'équipe qui crée les formules.
Ouais.
C'est deux métiers
différents. Donc, c'est juste après.
Ouais. On l'a fait en parallèle.
D'accord.
On l'a fait en parallèle.
Mais il récupère l'équipe de formulation, récupère
l'ingrédient.
L'ingrédient et aussi toutes les vertus à partir de ça en disant bon, bah, ça va faire ça. Donc associé à
on va le mettre,
d'autres choses.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on met dedans pour amplifier le chébé? Parce que c'est ce qu'on a fait.
On met du chébé, on le moue, on le torréfie et puis tu t'en mets sur les cheveux. C'est pas que ça. Il faut le mettre avec d'autres ingrédients pour le magnifier, on va dire.
Pour le magnifier et surtout nous, donc avec cet extrait, on est arrivé à toutes tes molécules actives. Et mais la question, quelle autre molécule est-ce qu'on peut mettre avec donc cet extrait pour amplifier les résultats? Parce que moi, je voulais quelque chose qui soit ultra efficace, tout en restant naturel.
Ok.
Ouais. Et puis là, il y avait quelque chose à faire. Et ça se voit sur le packaging. Ouais. Par exemple, la boîte, c'est une ancienne boîte à bijoux qui a inspiré le design de l'étui. Et puis aussi, le tube, c'est en fait les couleurs du Tchad. Et pour moi, ce sont les couleurs de mon enfance quand je passais les études. Donc, c'est ça. C'était ça le brief pour le tube.
Ah ouais, d'accord. mais j'aime bien entendre parler de ça parce que c'est vrai que je n'ai pas encore abordé cette question avec les... ça peut s'appliquer à plein d'entrepreneurs. Mais justement, le brief, comment tu crées le produit. Donc, on l'a compris, les actifs qui vont magnifier, mais aussi tout ce qu'il y a autour.
Tout ce qu'il y a
Le décor et puis l'identité visuelle de ta marque. Cette odeur de pluie, après la pluie, de terre après la pluie, l'encens... les packaging, etc. C'est hyper passionnant. Enfin, ça me plaît que tu nous en parles. Et donc, du coup, associé au Chébé, qu'est-ce que tu as décidé? Qu'est-ce que vous avez
comme ingrédients?
Ouais.
À chaque fois, autant d'ingrédients que possible qui sont d'Afrique.
Ouais.
Parce que nous, on a d'abord inventé une marque chadienne africaine.
Oui, et tu vas pas aller au fin fond de l'Asie pour retrouver, si tu peux l'avoir sur place, tant qu'à faire, autant...
Donc du coup, et puis aussi des ingrédients, quand possible, aussi français, pour aussi limiter l'impact carbone. Donc c'était vraiment un équilibre à trouver, qui n'était pas toujours évident. Par exemple, on avait du beurre de karité d'Afrique, qui est bio et fair trade. Donc, qui vient du Burkina Faso. On a du moringa qui vient d'Éthiopie. On a de l'huile de sésame bio que les femmes tchadiennes adorent et utilisent énormément. Et notre huile de sésame est en fait française.
D'accord.
Parce que c'est la qui a mon impact. Et puis aussi, on a des huiles de ricin. Quand on parle de pousse de cheveux. D'ailleurs, on a un actif dans la crème capillaire qui est autre que le chébé du Tchad et qui en fait permet de stimuler la pousse des cheveux. Parce que le chébé ne stimule pas la pousse. Ça renforce les longueurs.
Parce que j'ai vu sur ton site internet, il y a des photos assez impressionnantes de gens, d'effets sur la pousse de cheveux qui sont vraiment...
Et c'est l'autre actif.
D'accord, et que tu n'en parles pas, c'est
je
pas encore...
Parle pas, qui nous appartient aussi, mais...
D'accord, et tu es en train de développer, parce que là, il faut le dire, Salwa Peterson, tu as un produit, donc le produit, la crème capillaire chez Billy Chad, bon, une bougie, un peigne, je sais bien, c'est les peignes des tontons, allez. qui est inspiré par un peigne traditionnel
du Tchad.
Du Tchad. Oui, c'est ça, voilà. Et c'est les peignes un peu, tu sais, qu'on met dans la fro.
Dans la fro, ouais. Et qui en fait est fait à la main par des artisans allemands. D'accord. Pour le coup, il est fabriqué en Allemagne. Et il est très très lisse et il ne casse aucun cheveu.
D'accord.
Et ceux-là, c'est en fait les bouts sont inspirés par la main. Et en fait, ils massent très bien. Tu devrais essayer.
Ah, ça stimule
la pousse aussi. Ouais. Nous, on l'appelle le peigne orgasmique.
Est-ce que t'es comme... C'est quoi? C'était la mère d'Elena Rubinstein qui disait qu'avant de se coucher, il fallait faire 100 coups de brosse dans ses cheveux pour stimuler la beauté du cheveu et la pousse.
Non, moi, j'y crois pas. Surtout pas sur un cheveu afro.
100?
100, mais après, il te reste...
Bon, après, Elena Rubinstein, elle était polonaise. Donc, à mon avis, elle avait des cheveux lisses.
Non.
Et moi, il faudrait que j'essaye, parce que moi, j'ai les cheveux tellement lisses. Tu vois, j'ai une mère qui avait une afro à l'époque, mais et ça a donné ça, tu vois.
Mais il est super, t'es avec le peigne avec toi. Ça marche trop bien.
Trop bien. Ok, donc, ce que je disais, tu as donc une crème capillaire. Est-ce que t'es en train de développer... d'autres produits qui vont arriver bientôt
sur le marché. Oui, bien sûr, on a tout un panier qui arrive.
Ouais, qui va bientôt arriver, etc. À quel horizon
Prochainement,
d'accord. Ok, et toujours sur les cheveux?
Potentiellement.
D'accord, donc en tout, tu l'as dit, ça a pris 3 ans pour développer cette crème capillaire le Graal du Graal pour toi.
Ouais, crème de la crème.
La crème de la crème. Combien de temps, combien de tests, combien de crèmes différentes t'as testé?
37. 37
versions. 37. D'accord.
Et des dizaines et des dizaines et des dizaines de tubes. Et 37 versions.
Et finalement, pour Salwa Peterson et pour créer cette crème, il y a combien de personnes qui ont travaillé dessus en tout et pour tout?
Beaucoup de personnes. Honnêtement, j'ai jamais compté. Mais d'accord. Même au laboratoire, évidemment, il y a la formulatrice, mais il y a aussi toute l'équipe de la régulation à côté, donc le réglementaire.
Ah oui.
Il y a aussi tous les fournisseurs de matières premières. Et comme nous, on est très strict, comme on est éco-cert, donc voilà. Et il y a tous les fournisseurs de packaging.
Et aussi, ça aussi, packaging, tu sais quoi, tu vas dans un catalogue et tu choisis les packaging.
Ah vraiment? Non. D'autant que nous, on n'a vraiment rien fait sur catalogue.
faire, d'accord.
On a fait faire, par exemple, notre tube, il est teinté masse.
Ouais.
Donc là, par exemple, c'est notre couleur, en fait. On l'a teinté dans notre couleur. Il est vraiment teinté masse. C'est pas imprimé.
D'accord. Ouais. Voilà. Ah oui, donc tu as fait faire en plus les packaging.
Une couleur, on a fait faire une couleur. C'est une couleur qui n'existe pas dans Pantone, donc on l'a fait faire.
Donc c'est des dizaines et des dizaines de personnes qui ont bossé sur le lancement. Et tu te souviens, la première fois que tu as vendu un tube, quand ça s'est passé le lancement, quand tu as eu tout qui est prêt, donc il y a la formule qui te plaît, tu as ton packaging avec tes couleurs, l'odeur, la texture et tout ça, tu as le produit fini. C'est validé parce qu'on n'en a pas parlé plus en détail, mais pour faire accepter ton produit par les cosmétiques, enfin l'Europe, des papiers, t'as pris un avocat spécialisé, enfin c'est des gens spécialisés.
Avec les gens spécialisés, des scientifiques spécialisés, des toxicologues, enfin avec beaucoup de toxicologues, d'accord. Parce qu'il fallait prouver en plus que c'était pas toxique.
Inocuité, que ça allait pas empoisonner.
Et ils ont fait faire des tests en plus, et j'ai passé le plus long été
de ta vie en attendant,
parce qu'on avait passé tous les tests, et un bureaucrate à la dernière minute a dit en fait il faut refaire un test de toxico, on vient d'en faire 7. Et qui ont coûté 3 bras. Ça coûte très cher.
Parce que c'est toi qui finances en plus.
Et 100% autofinancé, quoi. Donc là, on l'a refait. On a pu bénéficier, heureusement d'ailleurs, d'un grant de la GTZ qui a financé, en fait. Mais c'était un grant, donc c'était c'était un financement. Voilà. Parce qu'ils l'ont vu comme de l'innovation. Ouais.
Donc quand ça a été validé, ça a dû être le soulagement.
J'ai respiré parce qu'en plus, il est parti en vacances. Parce qu'il nous l'a dit en juin, il est parti, il est rentré en septembre. Donc on savait
t'attends.
On avait tout arrêté pendant les 3 mois.
Ouais.
Bah oui, parce qu'on n'allait pas continuer à investir dans des packs, des trucs. Si on savait pas. Et les autres ingrédients, on a tout arrêté. Oui. Il revient comme une fleur.
En fait, c'est bon. Gars, ça fait 2 mois que je...
Et vous aviez déjà les tests de toxico, on vous l'a dit.
Voilà. Ok, donc c'est validé. Donc, tu as tout qui est prêt pour le lancement.
Tout pour le lancement. Donc, du coup, on a fait un événement presse.
D'accord,
chez mon ami David Mallet.
D'accord.
J'étais dans son salon hier. Couper les cheveux.
Ok.
Qui en fait a eu la gentillesse de la générosité de dire en fait qu'on peut venir dans son salon.
Ok.
Qui nous a privatisé une partie de son salon. Je sais pas si tu le connais, c'est ce magnifique hôtel particulier.
Ouais.
Notre grand dame de Victoire. Et on a eu donc de l'influence et c'est comme ça qu'on l'a lancé. Et on a eu un très beau lancement.
Ouais.
Donc, parce qu'on a eu la presse, on a aussi eu de l'influence.
Oh, j'ai vu, t'as un nombre de publications.
Ouais.
Assez impressionnante. Ouais. J'ai même vu pour la journée internationale du droit des femmes, t'es entre Ouda Katan et Lolisa Lambica. Je fais, c'est sympa comme petite. C'est sympa les femmes entrepreneurs. Voilà. Ouais. Et puis le dernier en date, le Oprah Daily, Oprah Winfrey, la papesse de la télévision américaine où il y a ta marque. Ça, dans une publication.
Et qui nous a donné un prix Oprah.
Ah ouais,
un prix, on a gagné un prix Oprah Award, ouais.
Et le jour où t'as vendu ta première, tu te souviens, est-ce que ça t'a
marqué? Je m'en souviens très bien parce que mon site n'était pas prêt.
Ok.
Et en fait, j'avais enlevé le mot de passe.
Ok.
Pour faire quelque chose et quelqu'un a passé une commande.
Il y a quelqu'un qui cachette.
Ouais. Et en fait, on n'était pas prêt. Mais j'avais sauté le mot de passe pour contrôler justement si la carte. Je voulais passer une commande test.
D'accord.
Et en fait, je reçois un mail qui me dit...
Il y a quelqu'un qui a passé une commande.
Ça, c'était excellent.
Ouais.
Ouais.
Et j'imagine que ça t'a marqué...
Ça m'a marqué, je me rappelle très bien, il était 15h05.
15h05.
29 octobre.
Ah ouais, ça fait combien de temps? Ça fait un an, deux ans?
Un an.
Ah ouais, pile un an. On est pile presque dans les pile un an que t'as vendu la crème. Et puis depuis, c'est que de... Ouais. Tu voles
et,
de succès
et après,
en succès.
Après, on avait remis le mot de passe.
Ouais.
Et j'ai quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, j'essaie de passer comment, mais en fait, le site bloque. c'était ça le lancement.
Okay. Et là, tu vas de succès en succès avec des parutions, avec des avis hyper élogieux sur l'efficacité de la crème, etc.
Ouais.
Puis t'es en plein développement aussi de nouveaux produits.
Ouais.
Et maintenant, tes parents, ils voient que sa loi Petersen, ça marche.
Ouais.
Que est-ce qu'ils pensent que c'est un projet moins fou qu'avant?
Je sais pas. Je n'irai pas poser la question, mais après, je pense que. Qui le voit aussi,
que
c'est ce qui me rend heureuse.
Oui, et que tu t'épanouis là-dedans.
Et je m'épanouis, et moi, je n'ai jamais été aussi épanouie professionnellement. J'ai toujours été très contente au boulot, j'ai à chaque fois adoré ce que je faisais. Mais là, je pense que je suis vraiment arrivée à un truc où je sens que j'ai trouvé ma voie.
Ouais. Si c'était à refaire, tu referais tout pareil?
Ouais.
Même sans les erreurs, tout mettre. Ouais. Qu'est-ce que là, en regardant, en jetant un coup d'œil derrière ton épaule.
Quand même, moi, je trouve aussi que j'aurais peut-être parfois dû demander de l'aide. Plus tôt et plus vite.
Ouais.
Parce que j'essaie de faire trop de choses toute seule. Et même aujourd'hui, je travaille avec des personnes formidables comme Marine, donc ma petite presse que tu connais, Steph, avec le laboratoire, avec Sylvie de France.
Ouais.
Donc j'ai quand même beaucoup.
Tu t'es entourée
gens.
Là, ouais.
Je me suis entourée, mais je trouve que j'aurais peut-être dû m'entourer plus vite. Et là, aujourd'hui, j'ai un mentor qui est extraordinaire. Bonjour Romain.
Bonjour Romain.
qui est serial entrepreneur et qui est très bienveillant et qui a monté plusieurs boîtes, y compris dans la beauté.
Ouais.
Et je me rends compte en fait que j'aurais peut-être bénéficié.
Ça aurait été peut-être plus vite, plus efficace.
Plus efficace et aussi moins seul parce que on est très seul
aussi
quand on est.
Le fait de tout investir de ta poche.
Moi honnêtement, ça m'a jamais fait peur.
Ah ouais.
Moi je crois que mon mari est plus frileux. ou mes parents.
Oui.
Mais moi, non, ça m'a jamais...
Est-ce que si on parle de pas le prix exact, mais combien ça coûte de développer un produit, de développer sa marque? Une comme échelle, on a pas, ouais, comme toi t'as fait, ça coûte combien en
ça
fait?
Coûte trop cher. Moi ça a coûté 5 fois plus cher que mon business plan.
J'avais prévu un truc et on
j'avais un business plan, mais à un moment donné le business plan, voilà,
ouais. Plusieurs dizaines de milliers d'euros,
des centaines de milliers d'euros.
Ouais. Ouais. Ah oui.
Mais c'est parce que c'est à cause de la R&D.
Ouais.
Parce qu'on peut créer une marque en beaucoup moins cher.
Oui.
On va acheter des formules sur catalogue.
Ouais. On achète des produits déjà faits en Chine qu'on revend deux fois plus cher. Ouais. Le dropshipping. Et voilà.
Mais on ne peut pas à ce niveau d'investissement.
Mais là, EcoCert et bio, tu peux te... tu fais ta sœur
dessus. Et c'est surtout d'avoir du tout construit. Par exemple, même là, cette caisse e-commerce aussi, oui. On l'a construite nous-mêmes. Et on a un brevet sur la
caisse de transport.
Qui a gagné aussi un prix.
Oui, je l'ai vu. pour envoyer les produits, le shipping des produits. Elle est trop belle. C'est comme une malle-poste un petit peu à l'ancienne.
Vintage avec tout.
Ouais, c'est ça.
Que les gens gardent, en fait.
Ouais, c'est... Pour ranger des trucs. Moi, je sais que les boîtes comme ça, j'en fais des boîtes à souvenirs.
Ouais.
Où je mets tous mes trucs de voyage, etc. Les billets d'avion, les choses comme ça. Donc, on l'a compris. Donc, un long développement de ton produit pour lequel tu mets beaucoup d'heures de ton temps. Et puis, avec Nils, qu'on n'oublie pas et qu'on salue. Ouais.
Et qui est le co-founder.
Qui est le co-founder de Salwa Petersen. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas?
Mais quand je ne travaille pas, qu'est-ce que je fais? Je passe du temps avec ma fille.
Et d'accord, quand, dans tout ça, en plus, t'es maman.
Oui, voilà, qui a 3 ans.
Ah oui, c'est un bébé, voilà.
D'ailleurs, un scientifique avec lequel je travaille, il me charrie toujours parce qu'il me dit, qu'il se rappelle, le jour où ma fille est née, je lui ai dit, écoutez, je vais accoucher, je vous rappelle.
Alors là, j'ai pas le temps, donnez-moi quelques heures, je reviens.
C'était ça, quoi.
D'accord, oui, là aussi du boulot. Oui,
j'avais travaillé jusqu'au dernier moment, mais après, une fois qu'elle était née, j'avais quand même... Je continue à travailler tout le temps, mais j'avais quand même essayé de prendre du temps et je le fais toujours.
D'accord.
C'est
prendre du temps pour quoi? Pour des passions? Est-ce que tu as des passions pour ta fille?
Pour moi, c'est très important, surtout le soir, de lui lire une histoire, d'être là. Son téléphone.
Pour le phoner aussi.
Ouais. Et si elle est à cet âge où elle n'est plus complètement un bébé, mais voilà, donc et parfois elle me demande, maman, est-ce que tu peux rester? Donc je reste parce que c'est très précieux, ça passe très vite.
Ouais.
Donc de faire du temps avec elle. Et aussi quelque chose que j'adore, c'est la nature en fait. Ouais. Donc les randonnées, ça j'adore, moi ça me...
vide l'esprit.
Ouais. Donc ça me vide l'esprit. Et puis aussi quelque chose qu'on fait avec Nils, qu'on a adoré faire pendant le premier confinement, c'est les jeux de société. On n'a pas l'occasion de le faire. Et en plus, très longue histoire courte, mais on habitait à New York en fait. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'après la Nouvelle-Zélande, on est venu en Allemagne, on est retourné à New York.
Okay.
On est revenu à cause de la pandémie.
Okay.
Et donc quand on est revenu, comme on avait suspendu notre abonnement internet, on n'avait pas internet
pendant un petit moment.
Et on était très contents pendant 6 semaines. Donc le soir, on jouait au Monopoly.
J'ai un ami qui a une ludothèque avec plein de jeux, mais c'est une passion, quoi.
C'est génial.
Tu peux jouer jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au les 4 heures du matin. C'est pas grave, j'ai pas fini la partie.
C'est différent parce que t'es pas derrière ton écran.
C'est ça.
Ouais.
Ah ouais, ouais. Et tu partages. Tu t'engueules et puis tu réfléchis. Il y a des jeux qui sont compliqués. Tu comprendras jamais. T'es là, waouh. Et puis t'as des trucs, ça joue très très vite. Et non, mais c'est tout un nouveau monde, les jeux de rôle. Ah ouais, non, mais c'est génial. Et puis quand t'as des compteurs, rien que. Je sais pas si tu connais le loup-garou.
Le loup-garou,
où tu t'endors, c'est un classique. Tu mets des bougies, tu racontes, t'as des potes qui sont des conteurs de ouf et tu passes des soirées. Attends, je comprends l'engouement, etc. Ouais. Ok, bah écoute.
Et aussi de cuisiner, j'adore cuisiner.
Ah ouais. T'es plutôt quoi comme type de gastronomie
Tchadienne, en fait, beaucoup de la fusion. Mais là, je suis parfois un peu triste parce que j'ai moins de temps pour cuisiner quand j'ai envie et puis aussi de moins de temps de faire des gâteaux. Mais du coup, avec ma fille, on en fait des gâteaux, des cookies. C'était récemment son anniversaire et elle était très contente.
Ouais.
Parce qu'on a passé le week-end à faire des gâteaux.
Ça, c'est cool. Ça, c'est la meilleure chose avec ses parents, la cuisiner, faire des gâteaux. Ok. Ouais. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y aurait une question que j'aurais oublié de te poser? C'est vrai que je pense qu'on a bien fait le tour. Dernière question du podcast. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui se disent je veux lancer ma boîte, ma marque de cosmétiques ou une boîte, dans quelque secteur d'activité que ce soit. Quels sont les conseils que tu leur donnerais pour essayer de faire les choses pas trop mal?
Moi, j'ai entourez-vous, c'est ce que je disais.
Ouais,
ça peut être très solitaire. Il faut s'entourer. Il faut trouver des mentors. Et moi, je dois beaucoup, beaucoup aux mentors. Et à mes mentors. Et c'est pour ça aussi que quand quelqu'un m'écrit, moi, je réponds toujours.
Ouais.
Parce que la personne a pris de son temps pour vous écrire, même si c'est pour dire non ou pas tout de suite. Est-ce qu'on peut se recontacter ou voilà. Moi, je réponds toujours. Et quand c'est un entrepreneur qui m'écrit, moi, je réponds toujours aux entrepreneurs. Ouais. Parce que moi, j'ai été à cette place-là. Et il y a beaucoup d'autres entrepreneurs qui m'ont donné un retour, en fait, ce que eux ils ont...
Et qui t'ont nourri de leur expérience pour exactement, que toi, justement, ouais, t'évites certains écueils, parfois. Certains écueils. Partie d'un groupement de regroupement de chefs d'entreprise ou de clusters ou de...
Dans un groupe d'entrepreneurs d'Harvard, oui.
Ok, d'accord.
Ouais,
ouais, ah oui, ouais. Ah oui, donc il ouais, doit y avoir des gens...
Il y en a beaucoup qui sont dans la tech, etc. Okay, ouais. Mais il y a quand même des expériences qu'on peut se repartager.
Que tu peux reprendre, etc. Reprendre, parce que mine de rien, la galère, les problèmes de sous, tout ça, ça peut se rencontrer quel que soit le domaine.
Exactement.
Ok. Ouais. Bon bah écoute, merci beaucoup d'avoir pris ce long moment pour répondre à mes questions.
Merci à toi.
Je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite de Salwa Peterson et pour toi au plan personnel avec ton mari. Et ton petit bébé, ta fille. Et puis écoute, bah, je te dis à très très bientôt.
Merci, à
très
bientôt.
Merci encore à Salwa de m'avoir accordé du temps entre deux rendez-vous lors d'un passage éclair en France. Comme d'habitude, un article dédié est disponible sur le site internet du podcast au www.slice-lepodcast.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas d'écouter des podcasts et de prendre bien soin de vous. Bye bye.